Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de tactique navale, et plus généralement du combat en mer d'hier, d'aujourd'hui et de demain, j'ai le plaisir de recevoir deux officiers de la Marine Nationale, auteurs d'un très impressionnant ouvrage qui, je crois, fera référence longtemps pour ce qui est de l'analyse des dynamiques et des perspectives du combat naval, paru il y a quelques semaines aux éditions des Équateurs et intitulé « Vaincre en mer au XXIe siècle, la tactique au cinquième âge du combat naval ». Alors tout d'abord, le capitaine de vaisseau Thibault Laverne, auteur donc de l'ouvrage, et puis je vais aussi donner vos fonctions actuelles, puisque c'est aussi ce qui vous caractérise, à savoir commandant second du porte-avions Charles de Gaulle. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre.
Et le capitaine de frégate François-Olivier Cormand, auteur déjà, je vais le signaler au passage, d'un très remarqué ouvrage il y a quelques années maintenant, intitulé « Innovation et stratégie navale ». Je vais préciser aussi que désormais, vous n'êtes autre que l'un des aides de camp du président de la République. Donc bonjour et bienvenue à vous aussi dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre, merci.
Alors, je vais dire tout de suite tout le bien que je pense de cet ouvrage que j'ai trouvé, je l'ai déjà dit, mais ça vaut le coup de le répéter, extrêmement impressionnant dans son projet comme dans sa richesse. Ce que vous cherchez à faire, appelons ça une sorte de traité de tactique navale contemporaine, comme on pourrait l'attendre peut-être de deux officiers de marine, qui soit vraiment utile et opérationnel, notamment pour des officiers qui le liraient et qui le liront. Mais je peux dire que vous vous tournez aussi beaucoup vers l'histoire, et c'est un travail qui est appuyé sur un très réel corpus large et très riche de combat naval que vous racontez avec talent, avec minutie, avec plaisir aussi, on a l'impression, et c'est très agréable à lire, pour donner des exemples de vos analyses et tirer des conséquences à partir de données et de combats donc historiques. Et je veux dire que c'est vraiment un travail qui ne se contente pas de compiler, qui croise et qui réfléchit à partir de rapprochements de différents combats. Personnellement, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire à la fois de l'analyse militaire et même de l'histoire militaire plus généralement, c'est-à-dire en travaillant et en croisant à travers les périodes pour faire émerger les grandes constantes et les variables à travers l'histoire, en l'occurrence l'histoire du combat naval. D'autant que, je veux dire, que vous étendez par ailleurs vos ailes jusqu'à l'histoire moderne, ce qui évidemment m'a personnellement ravi. Alors, j'aurais peut-être aimé commencer par un mot sur le projet de l'ouvrage. Je pense que les auditeurs se doutent du fait de vos fonctions respectives, que vous êtes des militaires assez occupés au quotidien, même si évidemment c'est probablement un projet de long terme, entrepris, j'imagine, à un moment où vous aviez un peu plus de temps que ces jours-ci. Mais donc, qu'est-ce qui a à la fois alimenté le désir et même vous a poussé sur ce projet de faire ce qui est vraiment une somme en français, ce qui est rare pour ne pas dire exceptionnel, du combat naval? Je ne sais pas qui... Thibault Laverne ?
Oui. Alors effectivement, comme vous l'avez dit Alexandre, faire un projet de cette ampleur, ça ne se fait pas en un jour. Et l'idée en fait a germé, je pense indépendamment de chacun de notre côté, il y a quelques années, à un moment de notre carrière où globalement on en avait vu assez en termes de pratique des opérations navales pour arriver à dégager des grandes constantes, des idées. Et puis en même temps, on avait aussi des constats communs, tous les deux, sur des manques à combler. Et moi, si je devais résumer à une raison principale pourquoi cet ouvrage, c'est pour combler un manque dans le paysage français de littérature navale qui est de donner une référence un peu durable en termes de tactique navale, au-delà du flot parfois un peu éphémère des publications, et aujourd'hui on ne compte plus les publications notamment dans le domaine stratégique, il manquait vraiment quelque chose d'un point de vue tactique. Et quand on regarde un petit peu l'histoire, nos grands anciens, au tournant du XXe siècle, on pourra en parler après, hein, de tous ces grands penseurs navals français, avaient beaucoup produit au début du XXe siècle, un âge d'or de la pensée tactique, et la France était une référence. Et ça aussi, ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu poussé, c'est-à-dire, si nos grands anciens, il y a un siècle, ont réussi à faire ces traités et à tirer tout le jus de leur environnement de l'époque, qui était très changeant, hein, ça aussi on pourra en reparler, aujourd'hui il faut aussi le faire. Donc globalement, combler ce manque avec un outil de référence qui parle de tactique navale, qui en parle aux praticiens, que nous sommes nous. D'ailleurs, on a un peu écrit en fait le livre qu'on aurait aimé lire, je pense, sur les bancs de l'école navale ou sur les bancs de l'école supérieure des combats et d'armes navales il y a quelques années. Et puis en même temps, voilà, une sédimentation de pas mal de choses qui fait qu'on avait besoin de restituer tout ça dans une œuvre cohérente.
Ce que j'allais dire, c'est... Enfin, quelle est la part de la tactique et surtout sur quoi est-ce qu'elle se fait? Enfin, quand vous avez appris quoi pendant votre formation, enfin, vous avez senti cette espèce de manuel de vademécum que vous avez produit, vous en avez senti le manque à l'époque, François-Olivier Cormand?
Oui, je pense qu'on a, avec Thibault, on a tous les deux été jeunes officiers dans la pénombre des centrales d'opération des frégates. À se poser les questions et puis à se passionner en lisant et en achetant des livres d'histoire navale qui sont souvent un peu anciens et qui sont pas les livres les plus empruntés des bibliothèques. Et aussi en constatant que de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de la Manche, il y avait une littérature pléthorique et des livres qui étaient réédités année après année sur ce sujet-là. Et voilà, comme le disait Thibault, ça a vraiment été ça, ça a été de dire, mais en fait, nous n'avons pas eu, en tant que jeune officier, un livre auquel on avait, dans lequel on avait envie de se plonger, et puis qui nous inspirait, qui nous donnait envie, qui nous donnait envie de réfléchir au sujet de notre métier. Ça a été ça, un petit peu ça, l'ambition, au départ.
J'allais dire, ça m'a fait penser, enfin, je pense que ça le deviendra, mais il y a une référence comme ça pour la tactique terrestre, qui est le livre, le traité du général Yakovlev, que les auditeurs connaissent bien, qui est Tactique théorique, qui en est à sa xième réédition. C'était un peu l'idée aussi de faire une sorte d'équivalent de tactique théorique sur les flots.
Oui, exactement. C'était d'avoir quelque chose qui soit un peu autoporteur, qui soit pas un ouvrage éphémère, qui se contente de décrire les tendances du moment, mais qui revienne aux bases.
Je peux dire, parce que par ailleurs, c'est un très bon précis de culture générale navale aussi. Et ça n'est pas rien, parce que vous racontez beaucoup de combats, des combats qui sont importants, des opérations qui sont importantes, et même dans la formation, on en reparlera, mais c'est pas souvent, la culture navale est souvent un peu, la culture générale navale est souvent un peu en retard par rapport à la culture générale terrestre, notamment dans l'histoire du XXe siècle, et du coup c'est un ouvrage qui permet tout à fait de compenser ce manque, parce que quand on en sort, bon, je sais pas si on sait l'essentiel de l'histoire navale du XXe siècle, mais en tout cas on a vraiment des très bonnes bases.
Oui, très clairement. D'ailleurs, c'est ce qu'on précise dans l'introduction, c'est que l'effort de culture générale pour l'officier de marine, il est salutaire. Aujourd'hui, l'officier de marine, plus que jamais, dans le contexte de changement des procédés très rapides qu'on a aujourd'hui et qu'on avait déjà il y a un siècle, il est happé par les procédés. La marine nationale, les marines en général sont des armées très techniques. Et Churchill remarquait déjà il y a un siècle que l'officier de marine lambda avait beaucoup de mal à s'extraire de tout ça et à raisonner de manière un peu générale. Donc ce qu'on voulait aussi apporter au lecteur, c'est cette culture générale du fait maritime, du fait naval, qui lui permette ensuite d'être créatif. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, pour vaincre en mer, il faut être créatif, et on est créatif dans la mesure où on a un peu décanté cette culture générale navale. Donc on répond aussi à ça.
Alors, pour commencer à placer peut-être un peu le contexte, bon, il y a un mystère dans le titre, hein, ce qui n'est pas vaincre en mer au XXIe siècle, ça c'est un objectif très louable. Le mystère, c'est un peu le cinquième âge du combat naval qui est dans le sous-titre, mais parce que ça va nous permettre de placer aussi le contexte du combat naval aujourd'hui et aussi un peu sa généalogie. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que ce cinquième âge du combat naval? Et puis aussi, du coup, quels sont les quatre autres? Parce que c'est évidemment l'un découle de l'autre. Thibault Laverne?
Ah, donc le cinquième âge, alors évidemment ce découpage est assez schématique. Ce qu'on a voulu restituer avec ce découpage en âge, c'est la dynamique du combat naval depuis globalement 4 siècles, parce que on revient à la culture générale. Qu'est-ce que la culture générale? C'est savoir se situer dans le temps et dans l'espace. Et quand vous arrivez à vous situer, vous êtes capable de mieux comprendre vers quoi vous allez. Donc ce découpage, pour répondre à votre question Alexandre, du coup c'est le suivant. Globalement, on commence tout ça avec l'âge de la voile, en précisant qu'il y a une préhistoire avant cet âge de la voile, qui est un peu l'âge de la galère, qui est un âge où Évidemment, on n'a pas attendu le XVIIe siècle pour faire des opérations navales. Pour autant, à l'époque, les marines, notamment en Occident, ne sont pas suffisamment constituées, ne sont pas suffisamment stables en termes de recrutement, de formation, d'architecture navale et surtout de doctrine pour arriver à en tirer quelque chose de cohérent. On reproduit dans cette préhistoire beaucoup de schémas terrestres en mer. On peut citer la bataille de l'Écluse, par exemple, qui est un archétype de tactique terrestre importée en mer. Et donc, globalement...
Donc, la bataille de l'Écluse, c'est 1341, c'est une bataille très typique médiévale.
Exactement. Et donc, on prend date au milieu du XVIIe siècle, où globalement, on commence à avoir des grandes marines qui se constituent. En France, c'est l'impulsion de Richelieu, avec tout un corpus qui commence à se mettre en place, notamment un corpus doctrinal, à cette époque-là, très, très géométrique. Donc l'âge de la voile, globalement, il commence au milieu du XVIIe, ou disons début du XVIIe, plutôt, et il va nous emmener jusqu'au début de l'âge du canon, qui va commencer à la milieu du XIXe siècle. Cet âge de la voile, globalement, il est caractérisé par plusieurs choses, par la centralité du vaisseau de ligne, qui emporte notamment des canons et qui va porter le feu. À cet âge-là, on concentre le feu à la fois horizontalement avec des bateaux qui sont manœuvrés en ligne, on pourrait y revenir, la ligne de bataille c'est l'alpha et l'oméga du combat naval, et on concentre le feu verticalement en empilant les canons sur des vaisseaux. C'est un âge où globalement le combat est très géométrique. Ce qui fait le facteur de la victoire, c'est la capacité à manœuvrer des flottes, parfois énormes. On distingue difficilement le début et la fin de la ligne formée par les voiliers. Et c'est la capacité à utiliser le vent pour manœuvrer intelligemment et contraindre l'ennemi dans sa manœuvre, et également par le feu. C'est un âge où on perd peu de bateaux. Les bateaux sont rarement coulés, les bateaux sont souvent désemparés, on s'en empare. On les réutilise dans la flotte ennemie. Par contre, c'est un âge où on perd beaucoup de marins. Donc, à cette époque-là, les marins tombent parfois comme des mouches dans des affrontements qui durent très peu de temps. Au XIXe siècle, on a une bascule vers le deuxième âge du combat naval, qui est l'âge du canon. Alors, on a décidé de parler du canon parce que c'est un peu l'emblème de cet âge-là, comme la voile est l'emblème de l'âge d'avant. Évidemment, cet âge-là...
Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de canon avant. Évidemment qu'il y a beaucoup de canons dans la guerre de ligne, c'est même l'élément essentiel. C'est simplement que là, c'est l'instrument plus pivotal qui détermine aussi beaucoup de la géométrie et des portées, en fait, des distances du combat du XIXe siècle et du début du XXe siècle.
Exactement. En fait, le nom qu'on donne à un âge, c'est le nom du procédé ou de l'outil qui fait que le combat est déterminé par son emploi. Donc la voile avant, ensuite le canon. Le canon, globalement, tout se joue dans la deuxième partie du XIXe siècle avec une trilogie qui va nous faire entrer dans un âge d'innovation très dynamique à l'époque. Premier élément de la trilogie, la vapeur, qui va remplacer la voile. Deuxième élément de la trilogie, ça va être le blindage. On va quitter les coques en bois pour arriver vers les coques en fer. Et troisième élément de la trilogie, c'est le canon qui va nous faire que se perfectionner pendant ces années-là. L'âge d'or du canon, globalement, ça se passe entre 1890 et le premier conflit mondial. Et c'est un âge d'innovation très très dense, avec énormément de pensées, énormément de réflexions tactiques. Cet âge du canon, le fleuron, c'est le cuirassé. On pourra y revenir, qui est la pièce maîtresse, donc le battleship, le bâtiment de ligne donc, qui succède au vaisseau de ligne de l'âge de la voile.
Pour ça, on peut dire qu'il y a des grands noms. Alors, il y a le Dreadnought, qui est un navire... Enfin, il y a eu plein de Dreadnoughts, mais en l'occurrence, qui est le cuirassé anglais paroxystique. Il y a le Bismarck en Allemagne. Enfin bon, c'est des grands navires dont on a souvent un peu gardé les noms parce qu'ils avaient cette réputation. Mais enfin, à chaque période, il y a des navires comme ça, une réputation d'invulnérabilité tellement ils étaient densément armés et fortement cuirassés. Quoi.
Oui, c'est ça. En fait, dans ces bateaux-là, on arrive à conjuguer les trois innovations dont j'ai parlé. Donc, c'est à la fois la vapeur qui va être remplacée, qui va évoluer avec la roue à aube, puis ensuite l'hélice, et puis on peut passer du charbon au mazout. Donc, tout ça, ça va se concentrer dans la vitesse. Le deuxième élément, c'est le blindage, donc avec une capacité à encaisser des coups phénoménale sur ces bateaux-là. On pourrait parler de la fin du Bismarck, mais qui reçoit une punition colossale avant de couler. Et puis enfin, il y a le canon. Et vous avez parlé du Dreadnought. En fait, le Dreadnought apporte, en 1906, quand il apparaît, cette évolution, un peu de rupture, qui fait qu'on arrive à emporter la décision avec un bateau qui déclasse brutalement tous les autres. Et donc ça, c'est assez symbolique de cette course à l'innovation de l'époque.
Il y a une bascule. Et là, simplement, on peut dire c'est des combats qui se font à portée de vue, mais plus tellement. Quoi. On commence à arriver vers des portées très importantes, de plusieurs kilomètres. Mais pour donner un indice de ce que c'est que ces progrès du canon, maintenant on arrive à taper assez solidement des navires qui sont à plusieurs kilomètres.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'âge de la voile, ce qu'on appelait le ruban de la mort, globalement, c'était 600 mètres. Alors, on tirait à 600 mètres entre deux lignes. L'âge du canon, quand on arrive au premier conflit mondial, le ruban de la mort, il est plutôt à 10, 20, parfois 30 km. Et donc, ça nous fait la transition, Alexandre, avec l'âge de l'avion, puisque de ce besoin de tirer loin, émerge un besoin de reconnaissance lointaine au début du XXe siècle, qui est honoré à la fois par des bateaux, ce qu'on appelle des éclaireurs, donc des avisos ou des croiseurs qui vont éclairer les cuirassés, et puis, évidemment, l'avion, qui apparaît à ce moment-là, donc l'avion basé à terre, puis l'avion basé en mer, qui sert dans un premier temps d'auxiliaire pour pouvoir éclairer au loin et arriver à repérer l'ennemi suffisamment tôt pour prendre sa formation de combat et ensuite l'engager au canon. Et donc l'avion au départ apparaît comme un auxiliaire et assez rapidement, donc au début du XXe siècle et notamment dans l'entre-deux-guerres, l'avion va prendre un rôle de plus en plus offensif. Et là nos anciens étaient confrontés à un dilemme à ce moment-là, faut-il disperser cette puissance aéronavale ou la concentrer ? La dispersion, c'était l'hydravion. Je mets un hydravion sur chacun de mes bateaux et il va éclairer, je le catapulte. Ensuite, l'hydravion se posait et je le récupérais avec une grue, choix qui a été fait en France. Ou la concentration, c'est-à-dire mettre beaucoup d'avions sur le même bateau, et c'est là qu'on en arrive au concept du porte-avions qui émerge à ce moment-là. Dans l'entre-deux-guerres, beaucoup de questions se posent, il y a beaucoup de débats. On perçoit que l'avion, le porte-avions, va jouer un rôle important. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va révéler ce rôle majeur, et là on rentre dans l'âge de l'avion. À ce moment-là, où globalement on passe d'un duel au canon à un duel qui est déporté par l'avion, qui fait qu'on va faire les premiers combats transhorizon et la manière de combattre en mer, la technique navale, va être totalement, non pas révolutionnée, mais en tout cas infléchie par l'arrivée de l'avion. Cet âge de l'avion, il va durer. Il dure encore aujourd'hui, en fait, d'une certaine manière.
Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est pas le second du Charles de Gaulle qui va me dire que les avions et les porte-avions, c'est fini, j'espère.
Non, exactement. Mais il y a quand même un âge un peu nouveau qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'âge du missile. Voilà, donc ça, c'est le quatrième âge. On est encore, d'ailleurs, en grande partie dans l'âge du missile, et en fait, tout se conjugue, c'est-à-dire que les avions, aujourd'hui, sont mis en œuvre depuis le porte-avions, vont tirer des missiles, et donc vous voyez bien qu'il y a une conjugaison de tout ça. Sauf qu'à partir des années 60, là où l'avion était central dans la manière de combattre, d'aller chercher autre, le missile reprend cette centralité. Et donc on peut dater le début de cet âge du missile globalement en 67, qui est donc la guerre des six jours. Et donc là, les premiers échanges de missiles entre des bâtiments de combat en mer. Et là, on découvre l'importance qu'a le missile pour emporter la décision. Et on pourra en parler après, mais l'arrivée du missile va faire qu'on va manœuvrer radicalement différemment à partir de ce moment-là, avec des dispositifs beaucoup moins géométriques, beaucoup plus éclatés, beaucoup plus dispersés, beaucoup plus souples. On pourra également y revenir. Cet âge du missile, on y est encore d'une certaine manière, mais on en vient donc à notre cinquième âge, qui est le sous-titre de notre ouvrage. Ce cinquième âge, on a choisi de l'appeler l'âge de la robotique. Alors là, c'est arbitraire. On fait un peu un pari sur l'avenir parce qu'il fallait bien trouver un nom pour incarner cet âge. Donc on a parlé du missile. Maintenant, on parle du robot. Alors robot. On pourrait définir le robot de plein de manières différentes, mais globalement, c'est ce qui est emblématique de cette nouvelle tendance qui est caractérisée par deux choses. La première, c'est que l'homme laisse de plus en plus sa place aux machines dans le champ du combat naval. Alors ça ne veut pas dire que l'homme s'enlève, bien au contraire, ça, on pourra y revenir, et François Olivier aura, j'imagine, des propos très pertinents sur le sujet. Première caractéristique, donc moins d'hommes, plus de machines. Et deuxième caractéristique, c'est que les locomotives que sont l'intelligence artificielle, le traitement massif de données, alors, toutes ces aides en fait à la fois à la décision, à la compréhension de l'environnement et ensuite à l'action, fait que la manière en fait de combattre en mer devient de plus en plus dépendant d'autres milieux, d'autres champs. Et donc là, on pourra reparler de ce dont on parle souvent aujourd'hui, ce qu'on appelle le multimilieu multichamp. Et bien ça rentre dans le combat naval par le biais de ce nouvel âge de la robotique.
Et simplement, on peut dire, il y a, ce que je ne l'ai pas dit au début, mais il y a une sorte d'urgence, pas d'urgence, mais en tout cas, il y a ce que vous faites apparaître dès l'introduction, enfin dès le début de l'ouvrage, c'est que ce cinquième âge du combat naval, il risque d'être intense. Il y a une sorte d'hypothèse du retour du combat naval qui arrive. Alors, c'est-à-dire, on pourrait dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a des exemples, il y a des exceptions, il y a la guerre des Malouines, il y a les guerres israélo-arabes, etc. Il y a des opérations navales à ces moments-là. Il y en a quand même assez peu à l'échelle de la seconde moitié du XXe siècle. Et une sorte de postulat aussi qui exprime la nécessité donc de faire ce genre de l'ouvrage, c'est que Bon, on est tranquille depuis un moment, mais ça pourrait revenir quand même prochainement. Il y a une sorte de montée en puissance navale, pour tout un tas de raisons, qui laisse présager que bon, le combat naval pourrait revenir dans les années ou les décennies qui viennent. François-Olivier, comment ?
Alors, je pense qu'il y a des données objectives qui sont principalement le réarmement naval. Et le marin a la chance de pouvoir naviguer dans des zones assez lointaines et donc de décentrer un peu de la métropole. Et c'est vrai qu'on est frappé de plus en plus dès qu'on s'éloigne des littoraux français par certaines marines étrangères qui deviennent des marines extrêmement impressionnantes. Et donc ça, c'est vraiment les données objectives.
Alors on pense évidemment tout de suite à la marine chinoise, parce que c'est vrai, enfin, bon, il n'y a pas que la marine chinoise, il y a...
Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas que des, il n'y a pas un monopole régional de cette expansion. C'est-à-dire qu'on trouve des marines en Méditerranée qui ont des expansions qui sont assez, assez incroyables. Et du coup, le marin est dans cette situation paradoxale où il a connu pendant plusieurs années, et c'était un petit peu le cas quand nous sommes rentrés dans la marine, une petite situation de supériorité qui était finalement assez, assez confortable. Et aujourd'hui, c'est quand même un challenge intellectuel de croiser en mer des bateaux qui sont extrêmement impressionnants et qui arborent un pavillon qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est des données qui sont objectives, et je pense que se rajoutent ensuite des données subjectives que nous n'avons pas détaillées ici, qui relèvent plutôt de la géopolitique, de la diplomatie, etc. Mais je pense que toutes ces données convergent vers l'impression qu'il faut se préparer à quelque chose. Voilà, qu'aujourd'hui, l'effort intellectuel est crucial, pas seulement pour l'effort intellectuel, mais parce qu'il est crucial et décisif pour préparer finalement la fin éventuelle de cette anomalie qui a été ces années sans combat naval, en tout cas ayant impliqué la marine française.
D'autant que, je sais plus, je crois que c'est un chef d'état-major de la marine qui disait ça à ce micro un jour, qu'on n'y pense jamais, mais il y a un avantage certain au combat naval pour des grandes puissances qui veulent s'affronter, c'est qu'il y a généralement très peu de dommages collatéraux. Ça permet d'avoir vraiment un duel de puissance assez chimiquement pur dans un environnement politique où on cherche à limiter les dégâts, et que de ce point de vue-là, pour des puissances qui auraient des intentions belliqueuses, l'affrontement naval peut être un assez bon proxy pour le faire sans trop de dommages. Thibault Laverne?
Oui, Alexandre, exactement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'inflation des moyens dont parlait François-Olivier, la quittera du réarmement, mais qui est une manifestation, en fait, du retour de la compétition des États-puissances, il y a également l'opportunité, l'effet d'aubaine que constitue l'affrontement dans un milieu commun. Donc les grands milieux communs, on les connaît, hein, c'est le milieu maritime, évidemment, dont on va parler, le milieu spatial, le cyberespace. Et donc, dans le milieu maritime, globalement, vous avez un effet d'aubaine, entre guillemets, à l'affrontement, qui est lié aux caractéristiques du milieu. Donc vous avez parlé notamment du fait que c'est un milieu un peu indolore. C'est vrai. Donc les dommages collatéraux en mer, c'est pas du tout...
Indolore, sauf pour les marins.
Exactement. Et d'ailleurs, quand vous faites le choix de partir en mer sur un bateau, en fait, implicitement, vous acceptez le risque que vous prenez d'aller à l'affrontement. Et d'ailleurs, la plupart des bâtiments civils qui apparaissent et qui rentrent dans une zone de guerre, en fait, implicitement, acceptent ce risque-là. Néanmoins, on y reviendra après, le milieu maritime reste immense. Et dans le milieu maritime, pas d'hôpitaux, pas de crèches, pas de routes. Voilà. Donc il y a un côté indolore qui fait que tenter l'affrontement est beaucoup moins risqué. En termes de retombées, d'effets dominos en mer, que ça ne pourrait l'être à terre. Premier point. Deuxième point, c'est un milieu qui était assez peu régulé, en réalité. Donc certes, il existe un droit de la mer, un droit maritime, mais qui peut largement être enfreint, et ça aussi, on pourra revenir sur ce sujet-là. Et puis plus généralement, en mer, vous avez... un espace de confrontation qui fait que comme c'est un milieu global, vous êtes au contact très rapidement. Or aujourd'hui, un des enjeux importants, c'est pas tant l'invasion, la conquête du territoire, mais c'est bien le contrôle des espaces communs, qui est une caractéristique. Et donc, comme aujourd'hui, l'affrontement des États-puissances joue beaucoup plus sur le contrôle que sur l'invasion, même si l'Ukraine peut donner l'impression que l'invasion, l'alpha et l'oméga, en réalité c'est plutôt le contrôle qui joue, eh bien, vous avez donc des volontés adverses qui se retrouvent en mer, dans un espace commun où il y a une opportunité de s'affronter. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut lire aussi la perspective du retour possible du combat naval.
On en reparlera évidemment, parce que c'est tout à fait central. Alors, pour entrer dans le dur en quelque sorte de l'émission, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Bon, c'est une somme, et ça n'a vraiment pas de sens d'essayer de faire une émission sur la totalité de l'ouvrage. C'est un livre de plus de 600 pages, qui est par ailleurs très dense, et une, ni deux, ni 10 émissions n'y suffiraient pas. Donc c'est évidemment pas le projet, mais je pense que c'est un ouvrage qui, du coup, et on a commencé à le faire, a le mérite de permettre de parler vraiment de combat naval et de la mer, ce qui n'est pas si fréquent, malheureusement, notamment, vous l'avez dit un peu, mais... dans une période où globalement tous les regards sont tournés vers l'Ukraine depuis plus d'un an, donc essentiellement vers du combat terrestre, même s'il y a eu cette légère parenthèse Moskva qui a permis, par exemple, à ce micro de faire une généalogie de la marine russe qui était très, très sympathique à faire, mais ça s'est resté une incise plus qu'autre chose à l'échelle de la guerre en Ukraine. Mais plus généralement, je peux dire, enfin, je pense que c'est souvent un imaginaire un peu flou, le combat en mer, parce que c'est loin... c'est un milieu mystérieux, voilà, c'est la mer. Loin du regard aussi, parce que à l'ère du missile et plus encore, c'est pas exactement des corps à corps, donc c'est souvent difficile de résumer, de rassembler l'action dans un seul plan. On pourrait dire ça aussi d'ailleurs du combat aérien, mais on a souvent, sur la guerre aérienne, cette mythologie du dogfight, du combat à très courte distance, d'ailleurs très exagéré par rapport à son importance réelle, mais voilà, il y a souvent ce besoin de saisir l'action en un plan, etc., par des choses très rapprochées, et ça, il faut dire que bah, le combat naval, ça s'y prête difficilement, parce que ce sont des distances immenses et la mort qui frappe de très loin quand il y a un combat. Donc voilà, justement, j'aurais aimé en parler un peu, et en premier lieu parler de cet espace dont j'ai dit qu'il était un peu mystérieux, pour reprendre la base, et surtout pour parler un peu des spécificités qu'on y trouve pour faire la guerre. Alors vous en trouvez... 4-5 essentiels. D'abord, je veux dire, bon, c'est un milieu qui est global, c'est-à-dire bon, il communique, il ne connaît pas vraiment de frontières, ça, on y a fait un peu référence. Surtout, j'aurais aimé entrer par là, vous écrivez que c'est un milieu qui est lisse et fluide. Alors, c'est très imagé, très joli. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, Thibault Laverne?
Oui, alors effectivement, chaque adjectif a son importance, et quand on a utilisé ces termes pour caractériser l'espace maritime... ça a été pesé au trébuchet, et on voulait vraiment mettre les bons mots sur les bonnes notions. C'était aussi une des frustrations qu'on avait en tant qu'officier de marine, c'est souvent d'entendre parler de choses et puis d'avoir l'impression qu'on n'était pas allé au fond des concepts. Donc lisse et fluide. Un milieu lisse, c'est un milieu dans lequel les mobiles peuvent se déplacer sans entrave, globalement. Alors évidemment, il y a de la viscosité qui apparaît en mer, d'autant plus que vous vous rapprochez des côtes, mais globalement l'espace maritime, qui occupe 70% de la surface du globe, est essentiellement lisse, c'est-à-dire que pas de coupure humide, pas de col, pas de montagne, les ondes se déplacent au-delà de la surface de manière non entravée, et donc ça a des conséquences sur lesquelles on pourra revenir, notamment en termes de capacité à se concentrer assez rapidement, tout est simple. Maintenant, le milieu il est lisse, mais il est fluide, c'est-à-dire que en terre aussi, vous avez des milieux lisses. Vous prenez un parking, c'est lisse. Par contre, c'est pas fluide. C'est-à-dire que le parking est stable dans le temps. La mer ne l'est pas. Donc c'est là qu'on en arrive à la fluidité. C'est-à-dire que le milieu fluide est un milieu en changement perpétuel. C'est un espace de transit qui ne peut pas être occupé. C'est-à-dire que la conséquence immédiate que vous avez sur le combat naval, c'est qu'il n'y a pas de front, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Tout se renouvelle en permanence, et donc l'avantage défensif que vous pouvez avoir notamment à terre, sur lequel on reviendra, vous ne l'avez pas du tout en mer.
Pour dire clairement, on a du mal à creuser des tranchées, quoi.
Exactement. Et donc lisse et fluide, ça c'est la mer. Uniquement lisse, ça peut se retrouver à terre, comme je l'ai dit. Par contre, le fluide, on le retrouve en mer, et donc dans les espaces fluides, notamment, vous avez une prédominance du temps sur l'espace. Et ça aussi, conceptuellement, c'est hyper important, parce qu'en mer, on pourra y revenir, le facteur temps est décisif, là où à terre, c'est plutôt l'espace qui va dicter les rapports de force.
Ensuite, nouvel adjectif, mais qui est tout à fait utile, multidimensionnel et notamment tridimensionnel. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, tridimensionnel... donc je représente bien l'affaire, en haut, en bas, sur les côtés. Donc quand vous êtes projeté dans la configuration navale, globalement, vous devez penser dans le plan. Donc là c'est la surface de l'eau, ces grandes étendues, cette masse donc à la fois lisse et fluide. Vous avez tout ce qui surplombe l'eau, donc là c'est le domaine aérien. Domaine aérien, mais que je préfère appeler le domaine aéronaval, c'est-à-dire que c'est l'eau au-dessus de la mer, l'air au-dessus de la mer.
C'est le problème avec les milieux fluides, on les confond parfois.
Et non pas l'air au-dessus de la terre, donc on pourrait y revenir, mais là aussi c'est quelque chose qui est assez déterminant. Et puis vous avez également sous l'eau, qui est en soi aussi un domaine en trois dimensions. Et donc ce domaine, la conséquence du caractère tridimensionnel de l'espace de conflictualité navale, c'est notamment deux choses. La première chose, c'est que vous avez des échelles de temps et d'espace qui sont très différentes. On peut citer un exemple dans la lutte anti-sous-marine. Voilà. Quand vous avez une chasse au sous-marin, sous l'eau, tout va être déterminé par des vitesses de l'ordre de la dizaine de nœuds, avec un son qui se déplace à plusieurs milliers de mètres, enfin de l'ordre du millier de mètres par seconde. En même temps, vous avez au-dessus un hélicoptère qui va chasser le sous-marin, qui lui va se mettre par exemple en stationnaire, donc à une vitesse quasiment nulle, et qui va dérouler un sonar qui va changer de milieu et se mettre donc dans ce milieu sous-marin où les échelles de temps et l'espace sont différentes. Et en même temps, vous pourrez avoir donc un avion de patrouille maritime qui lui aussi va chercher ce sous-marin-là en évoluant à 250-300 nœuds, en volant au ras des flots et en utilisant les ondes radar qui vont se déplacer à une vitesse très différente des ondes acoustiques sous l'eau. Donc, mélange d'échelle de temps et de
mélange d'échelle de vitesse. On comprend tout le principe qu'il y a, par exemple, à synchroniser une flotte quand il faut à la fois gérer des avions qui sont à des milliers de kilomètres heure, des sous-marins qui sont à quelques nœuds et des navires qui sont à quelques dizaines de nœuds. Voilà, il y a, disons, des échelles et des rythmes différents qu'il faut réussir à synchroniser en temps réel, quoi.
Et il y a surtout un enjeu technologique, on pourrait y revenir, qui est majeur. Et donc, deuxième conséquence, c'est que l'effort défensif que vous devez déployer dans le combat naval, il est énorme. Parce que quand vous êtes potentiellement menacé dans les trois dimensions, du coup, vous devez être capable de vous défendre contre une menace qui vient sous l'eau, contre une menace qui vient dans le plan, et contre une menace qui vient du ciel. Et donc ça, c'est aussi une caractéristique forte de l'espace aéronaval, aéromaritime, c'est que l'effort défensif que vous devez déployer, il est diriment et il est extrêmement exigeant par rapport aux autres milieux.
Et enfin, quelque chose de trivial, on en a déjà parlé, mais il faut le rappeler, il faut insister dessus. C'est un milieu qui est immense. Rappelons que, en fait, il y a cette impression de transparence, d'évidence, etc. On sait où sont les choses et que rien ne peut se cacher à la surface de l'eau. Il est bon de rappeler que la mer, c'est très grand et que, en fait, on s'y perd facilement. Il y a quand même beaucoup d'angles morts dans tout ça. François-Olivier, comment ?
Oui, je pense que ça, c'est vraiment. On a essayé dans ce livre de. Non pas de battre en brèche des idées reçues, mais d'essayer de rappeler quelques principes. Et effectivement, aujourd'hui, on a cette impression, vous savez, c'était un livre qui avait été écrit dans les années 2000 par un amiral américain qui était Lifting the Fog of War, c'est-à-dire d'essayer de... Voilà, il n'y aura plus jamais... On saura tout, il y aura des drones, des satellites, on saura tout. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, et il suffit de sortir devant Toulon pour faire un exercice pour se rendre compte qu'en fait, on a beau avoir des équipements technologiques... impressionnant et de plus en plus impressionnant, en fait, ça reste très compliqué d'aller chercher un sous-marin. Ça reste facile pour un bateau de se cacher dans un trafic commercial, de couper toutes ses émissions et de disparaître. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier.
Oui, et d'ailleurs...
Allez-y.
Oui, et je peux rebondir là-dessus. On sort avec le porte-avions d'un exercice qui s'appelle Orion, dont les auditeurs ont sans doute entendu parler, qui est un grand exercice interarmé. Pour la partie navale, ça s'est passé en Méditerranée, avec un affrontement très symétrique entre deux flottes de premier rang. Et on voit bien que même en Méditerranée, qui est une petite mer, qui occupe une toute petite partie du pourcentage de l'espace maritime mondial, on arrive encore à cacher des flottes, à cacher des bateaux, certes pas pendant des jours, mais en tout cas pendant plusieurs heures, qui suffisent parfois... à tromper l'ennemi et à emporter la décision. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que vous voyez sur la couverture du livre, hein, pour vos auditeurs, avec ce banc de brouillard que l'on retrouve à droite de la photo. Ça vous montre bien que la mer est grande et qu'on peut encore s'y cacher, même dans des mers réputées petites.
Mais, et c'est très intéressant, parce que vous pointez bien que, alors c'est vrai que c'est très grand, on peut s'y cacher, on peut s'y perdre, etc. Mais il y a ce que vous appelez la singularité littorale, qui est quelque chose qui est vrai de tout temps à l'échelle de l'histoire navale. C'est que oui, c'est vrai que la mer c'est grand et qu'on peut aller à plein d'endroits, mais en fait, quand il s'y passe des choses, à quelques exceptions près, toujours au même endroit, c'est souvent près des côtes. Donc il y a quelque chose, il y a aussi ce côté à deux vitesses qui est entièrement propre au combat naval et au fait naval, qu'il y a, il y a une temporalité qui est la temporalité des déplacements, de la projection de puissance, etc. Mais quand on se rapproche des côtes, tout ça se précipite souvent quand même. François-Olivier, comment ?
Oui, complètement. Le marin a beau être passionné par la mer, c'est un bipède avant tout, et le marin est bien conscient que le, que l'enjeu du monde se résoudra en partie à terre. La particularité, c'est que la mer a une puissance d'action sur la Terre qui nous paraît importante et qui a été prouvée dans les derniers grands conflits mondiaux. Et nous, il nous a paru notamment intéressant de remettre en perspective une notion qui est liée à ça, qui est la notion d'espace contesté, une notion qui est assez développée depuis plusieurs années, que les spécialistes appellent la 2AD, etc. C'est-à-dire, c'est finalement le fait qu'aujourd'hui, la prolifération des missiles, des satellites, etc., rendront l'accès des côtes impossible à une flotte, etc. Et là aussi,
Ça, c'est très intéressant, parce que vous le détaillez très bien, vous dites, la force de la flotte, c'est que elle se déplace et que donc elle peut attaquer facilement un point faible s'il y en a un. Il n'empêche que, à puissance de feu égale, ça n'a pas de sens, mais en tout cas, entre une flotte et un espace terrestre correctement défendu, c'est rarement la flotte qui gagne parce que la puissance de feu qu'il est possible de développer à partir de la Terre est quand même sans commune mesure avec ce que même une flotte puissante est capable de mettre en œuvre.
En fait, il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'effectivement, la flotte part avec un inconvénient tactique, mais en fait, on se rend compte en étudiant l'histoire qu'elle vient pourtant souvent gagner stratégiquement. Et que si on prend l'exemple de la guerre de Corée, si on prend... on a tous ces exemples, ou l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, ou de la bataille du Pacifique au sein de cette Seconde Guerre mondiale, on voit bien que la flotte, malgré cette, arrive finalement à tourner cet inconvénient, cette faiblesse inhérente à la partie navale vis-à-vis de la Terre, arrive à la tourner en avantage stratégique. Et c'est ça qui est finalement assez stimulant pour le marin. C'est qu'il sait qu'il va arriver dans un domaine où finalement il est naturellement moins à l'aise, et pourtant c'est probablement là qu'il va pouvoir agir sur le cours des choses de manière décisive.
Alors au niveau stratégique, incontestablement, maintenant si je reviens au niveau tactique, très clairement quand on se rapproche de la masse terrestre, les équilibres évoluent. Alors comme on le dit dans le livre, ils sont pas radicalement changés, c'est-à-dire que toutes les caractéristiques du milieu naval qui emportent des conséquences tactiques restent valables. Mais vous avez des choses qui changent. Bon, la première chose, évidemment, c'est que vous êtes emporté de la masse terrestre, de tout ce qui est basé à terre. Et donc, c'est ce que Nelson appelait les forts, hein, en disant que a ship is a fool to fight a fort. C'est-à-dire que, voilà, depuis le départ, aller combattre une muraille bardée de canons avec un bateau, vous partez en situation d'infériorité parce que l'avantage défensif clausewitzien qu'a cette forteresse, là, pour le coup, il joue à plein.
Clausewitz, j'aime bien expliciter les références à Clausewitz. Clausewitz théorise de manière très nette l'avantage de la défensive dans le combat à terre. On y reviendra, mais ça s'applique peu en mer, c'est pour ça que c'est intéressant.
Donc vous avez déjà cette influence de la terre sur vous, et plus vous vous rapprochez des côtes, plus c'est vrai. Ensuite, la géographie va vous contraindre, c'est-à-dire que vous allez avoir des axes d'approche qui sont beaucoup plus limités. Or, quand vous êtes en pleine mer, un des grands avantages, c'est que vos lignes d'opération, vous pouvez les varianter quasiment de manière illimitée. Et puis, une autre difficulté, c'est que quand vous approchez de la terre, il y a de la vie dans tous les domaines. Il y a plus de monde en mer, il y a plus de viscosité, il va y avoir plus de trafic. Vous allez tomber sur des éoliennes, vous allez tomber sur des dispositifs de pêche, vous allez tomber sur des contraintes de navigation liées à la sécurité maritime, et puis vous allez tomber dans le fouillis, ce fameux fouillis. Donc le fouillis, globalement, c'est cette espèce de bruit de fond terrestre qui est valable partout, qui est valable en l'air, qui est valable sur l'eau, qui est valable sous la mer, qui fait que là où les choses étaient beaucoup plus signantes en haute mer, vous allez devoir composer avec ce fouillis, notamment ce fouillis dans le domaine électromagnétique, où les indiscrétions de l'ennemi, vous allez beaucoup moins les voir. Et donc,
parce qu'elles vont être prises dans le bruit de fond. Quoi.
Voilà, prises dans le bruit de fond. On peut citer par exemple les indiscrétions radio de votre adversaire. Forcément, quand vous approchez des côtes, d'une côte très fréquentée, elles vont pouvoir se noyer dans ce bruit de fond. Et plus généralement, tous les mobiles qui vont évoluer, dès l'instant où ils évoluent au-dessus de la masse terrestre, alors, vous avez un espèce de ce qu'on appelle le fouillis, tout simplement, qui fait que vos senseurs vont être un peu moins performants. Pareil sous l'eau, un sous-marin qui arrive dans une ambiance beaucoup plus bruitée, liée justement à la proximité des côtes et au trafic maritime, fait que ça va être plus simple pour lui pour se cacher, et en même temps ça va être plus compliqué pour lui de détecter. Donc tout ça pour dire qu'on explique dans notre livre que les caractéristiques du milieu naval, quand on s'approche des côtes, elles sont un petit peu infléchies. Maintenant, la question, c'est mais quelle est cette distance à partir de quelle ça s'infléchit? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de référence. C'est-à-dire ce qu'on appelle la frange littorale, on la caractérise conceptuellement comme cette distance à la côte à partir de laquelle vous pouvez produire des effets décisifs de la terre vers la mer, et réciproquement, cette distance à partir de laquelle la flotte peut commencer à produire des effets directement sur les objectifs littoraux. Selon les penseurs, ça peut être, ou selon les époques, cette bande, elle peut aller de quelques kilomètres à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres, à tel point qu'aujourd'hui, certains analystes considèrent que la mer Baltique, par exemple, ou la mer Méditerranée, sont quasiment des franges littorales à part entière.
Oui, parce qu'on mesure bien que par ailleurs c'est différent à l'âge du porte-avions où on peut catapulter des rafales pour aller frapper la terre assez aisément, et à l'âge du dreadnought où il fallait quand même être à portée de canon. Simplement, donc on l'a dit, c'est vraiment un ouvrage tactique, parce que c'est sa spécificité. On peut dire des bouquins de stratégie maritime, stratégie navale, il y en a quand même un paquet. Mais là où les deux s'articulent, et j'aurais quand même aimé en parler une seconde, c'est, je vais poser la question de manière très bête, pourquoi est-ce qu'on fait la guerre sur mer? C'est-à-dire pour quels objectifs, quels sont les objectifs, quels sont les effets qu'on pense avoir? Alors vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, les notions de contrôle des mers, de déni d'accès, etc. Mais en gros, quels sont, pourquoi est-ce qu'on a des flottes, à quoi est-ce que ça sert, et pourquoi est-ce qu'on envisage de se combattre en mer? Quels sont les grands objectifs qu'on peut espérer avoir à partir du combat naval? François-Olivier Cormand?
Je pense qu'on se bat en mer parce que, historiquement, ça a marché. C'est-à-dire qu'on se bat en mer parce que l'impact qui est possible sur le cours des choses, qui n'est pourtant pas immédiat, a marché au cours des siècles. Je pense que sans revenir à Mackinder, Spackman, etc., voilà, la thalassocratie a réussi dans l'histoire, est un modèle qui a particulièrement réussi dans l'histoire. Ça, je pense que c'est tout l'enseignement de Mann, etc., qui dépasse largement le sujet de l'objectif de notre livre, mais je pense que c'est
alors,
quand
Mann,
même...
Alors Mann, juste à préciser, c'est Alfred Thayer Mann, qui est donc un grand penseur naval, qui est la référence en stratégie navale encore jusqu'à aujourd'hui. Très mauvais marin, très bon théoricien, Je peux préciser, parce que ça m'amuse toujours de le préciser, que c'est un officier de marine américaine de l'époque de la guerre de sécession qui a fait toujours tout ce qu'il pouvait pour ne jamais aller en mer. D'ailleurs, je mets au défi qui que ce soit de voir des références à la navigation dans l'œuvre de Mann, parce que c'était vraiment un marin à terre, mais qui fait quand même référent jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres penseurs à peu près contemporains, mais sur l'idée que, voilà, il y a la possibilité de contrôler les océans. Et que la puissance, elle se voit notamment en mer par la capacité à contrôler les espaces maritimes. Et que donc il faut penser en termes de stratégie globale de ce point de vue-là.
Exactement. Et la notion de contrôle des espaces maritimes est une notion qui a traversé l'histoire avec des enjeux qui ont évolué, qu'on peut par exemple aujourd'hui voir de manière complètement différente, parce qu'aujourd'hui quand vous contrôlez l'espace maritime, vous contrôlez des câbles sous-marins, vous contrôlez des infrastructures portuaires, vous contrôlez des ressources, etc. Et du coup cette bataille a traversé l'histoire avec la conclusion que la maîtrise des mers était un atout décisif. Et nous on a essayé de...
Mais alors justement, venons-y. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Parce que la Manne écrivait à une époque où c'était globalement la Grande-Bretagne qui maîtrisait les mers depuis un certain temps, puis ce seront les États-Unis. Aujourd'hui, dans un monde où les États-Unis sont évidemment la première marine du monde encore, mais la Chine progresse vite, où il y a d'autres marines puissantes, est-ce que ça a du sens de penser, contrôler les mers, de développer un outil naval dans l'objectif de contrôler les espaces maritimes ? Thibault Laverne ?
Alors oui, ça a un sens totalement renouvelé, d'autant plus que, comme je le disais en répondant à une question précédente, l'enjeu est aujourd'hui clairement au contrôle dans les espaces communs, beaucoup plus qu'à l'invasion avec la conquête territoriale. Avant de développer ma réponse, je reviendrai peut-être un peu sur le découpage intellectuel, parce que c'est bien d'avoir quelques repères, je pense, pour les auditeurs, sur pourquoi ce bateau en mer. Donc, dans le livre, on le résume notamment au chapitre 2. Très simplement, il y a deux choses. Il y a le combat en mer pour maîtriser l'espace maritime, c'est-à-dire arriver à y manœuvrer librement et empêcher l'ennemi de le faire, mais ce qui peut être très coûteux, déjà en termes d'efforts matériels et opérationnels. Et puis après, il y a un deuxième grand pan qui est ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre trou, que vous maîtrisez votre environnement, là vous allez pouvoir rentabiliser l'investissement. Dans ces deux grands pans, vous avez un premier pan, donc il y a ce pan de maîtrise de l'espace aéromaritime qu'on appelle traditionnellement la guerre d'escadre. Donc là, globalement, c'est ce que théorise Mann, hein, et qu'il met au frontispice de l'action navale, c'est balayer de la surface de la mer l'escadre ennemie, parce qu'une fois que c'est fait, ensuite vous avez les mains libres pour faire autre chose. Dans cette maîtrise, globalement, on a trois sous-familles que je balaye très rapidement. Une première famille qui est la conquête, donc là c'est la pointe de diamant, c'est je vais chasser l'autre de la mer. C'est ce qu'on s'est entraîné à faire par exemple pendant l'exercice Orion récemment avec le groupe aéronaval et d'autres bateaux. Vous avez une autre classe qui est la classe du maintien, c'est-à-dire que globalement vous avez réussi à prendre pied, maintenant il faut maintenir. Une des déclinaisons, ça va être le blocus, tel qu'on a pu le faire par exemple en 1999 pendant l'opération Trident où on en a fait un blocus, nous la Marine Nationale, contre les bâtiments serbes qui étaient basés au niveau des Bouches de Kotor. Et puis après vous avez la dispute, c'est-à-dire l'attaque, là vous êtes en infériorité, vous voulez faire votre trou et aller chercher la place qui vous revient en mer. Ou alors gêner l'autre, et donc ça c'est typiquement ce que font les super étendards argentins contre le Sheffield en 82, épisode qu'on,
pendant la guerre des Malouines.
Voilà, qu'on développe au chapitre 1 de notre ouvrage. Ensuite vous avez l'exploitation, et c'est de ce que disait François-Olivier, là c'est vraiment je récupère mon investissement, ce que j'ai semé. L'exploitation elle peut se faire en mer ou vers un autre milieu. Historiquement elle se fait traditionnellement vers un autre milieu qui est essentiellement la terre. Une fois que vous êtes le maître de la mer, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez projeter des forces vers la terre. Donc là, c'est un débarquement amphibie. François-Olivier disait même que stratégiquement, ça pouvait renverser les choses. Et c'est là qu'on voit que le pouvoir de la mer, le sea power, peut influencer la masse terrestre, justement parce qu'on va exploiter cette liberté qu'on a en mer.
Vous savez, pas besoin d'aller chercher très loin. Il suffit de penser au débarquement de Normandie, ça marche très bien.
Exactement. On peut aussi l'utiliser, non pas pour projeter des forces, mais pour projeter de la puissance, tout simplement. Donc ça, c'est ce que font traditionnellement les porte-avions occidentaux depuis la fin de la guerre froide.
Vous pouvez... Pour ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, on peut penser à la guerre du Golfe.
Exactement, par exemple, ou à l'opération Chamal, à laquelle participe la France depuis maintenant 2014. On peut aussi exploiter vers la terre en cherchant à approcher de la logistique, hein, tout simplement. Donc là, par exemple, c'est ce que font les Américains et les Japonais à Guadalcanal entre 42 et 43. Une fois qu'on les met de la mer, ensuite on va ravitailler toutes nos têtes de pont à terre. Ça peut être aussi se protéger ensuite contre une menace. C'est ce que fait la Royal Navy pendant des années contre Napoléon et puis ensuite contre Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou tout simplement recueillir du renseignement. Donc ça, c'est ce que vous allez faire depuis la mer.
Il y a des similaires, mais il y a un paquet de gens qui vont faire des infarctus si vous mettez Napoléon et Hitler dans la même phrase. Donc,
oui, exactement.
Mais il y a des similitudes opérationnelles qui sont réelles.
Donc ça a été les deux grosses craintes britanniques pendant quelques siècles. Et donc, je termine cette espèce de découpage intellectuel, mais qui, je pense, est nécessaire. Ensuite, vous avez l'exploitation en mer. Donc là, pour le coup, c'est « je suis maître de la mer », mais pour produire des effets en mer. Et c'est là qu'on en arrive à l'enjeu du contrôle. Produire des effets en mer, c'est quoi? Ça va être me permettre de découler librement mon flux commercial. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand vous prenez Mahan, aujourd'hui, Mahan, on l'a souvent résumé à dire c'est la guerre en mer entre escadres. C'est pas du tout ce que dit Mahan. Mahan, il dit ça, c'est un moyen, c'est pas du tout la fin. La fin, c'est d'aller écouler librement le commerce, le doux commerce américain, qui est vraiment l'essence du sea power. Et ça, aujourd'hui, dans un monde globalisé, dans un monde maritimisé, on a totalement perdu du l'intérêt, parce que les artères navales maritimes, plutôt, nous paraissent coulées de source. Mais dans un contexte de retour des confrontations en mer, avec l'enjeu du contrôle, on voit bien tout l'intérêt qu'on a à contrôler la mer.
Et ça, on s'en aperçoit si... on s'en aperçoit de manière minimale quand il y avait des opérations de piraterie au débouché de la mer Rouge. On s'en aperçoit aussi si on fait des wargames ou si on réfléchit 5 minutes à ce qui se passerait si les Chinois fermaient le détroit de Taïwan ou entravaient le détroit de Malacca. Ça aurait des conséquences gigantesques sur l'économie et les échanges mondiaux. Enfin, je veux dire, à partir d'effets militaires relativement limités, ça aurait des conséquences systémiques, globales, absolument démentielles.
Oui, exactement. Exploiter la mer, c'est aussi pouvoir utiliser la masse d'eau pour les besoins tout simplement de halieutiques, donc aller chercher les poissons, hein, nourrir une partie de l'humanité. Exploiter la mer, c'est aussi aller exploiter les ressources qui sont au fond de la mer, donc là c'est la colonne d'eau et puis ensuite le sous-sol, donc avec tout ce que ça peut rapporter d'un point de vue cette fois-ci énergétique, et on sait bien que les enjeux énergétiques aujourd'hui, enfin ils sont en grande partie devant nous. Et puis il y a un dernier point qui est intéressant de relever quand j'exploite la mer, c'est aussi pouvoir y manœuvrer et y terrer certaines dans les dispositifs, typiquement la dissuasion. Donc on voit aujourd'hui la dissuasion nucléaire qui repose en grande partie dans les pays, dans les grandes puissances, sur une capacité de frappe en second basée sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, il ne faut jamais oublier qu'il manœuvre librement parce que on maîtrise l'espace aéromaritime. Et donc ça aussi c'est une finalité d'exploiter la mer pour un besoin qui est ici la dissuasion.
Et pour ça, pour en trouver un exemple, on peut songer à la différence que c'est par exemple pour les SNLE français qui se diluent au large de Brest, donc dans un milieu certes où il y a un peu de monde mais qui est quand même relativement contrôlé, et la différence que c'est par exemple pour les Chinois qui ont en face de leur côte Taïwan, qui empêchent donc la dilution facile et qui sont obligés de passer plutôt par le sud, et c'est toute une autre affaire parce que ça rallonge considérablement leur route et donc leur capacité. Alors maintenant, une fois qu'on a fait en quelque sorte ce panorama, j'aurais aimé parler peut-être un peu plus des acteurs du combat naval, c'est-à-dire de ce que c'est, avec quoi on fait la guerre sur mer, avec qui on fait la guerre sur mer aujourd'hui. Peut-être, mais avant tout, pour replacer un peu comme on l'a fait pour le milieu maritime, dire un certain nombre de ce qui peuvent être des évidences, mais en fait qui ne le sont peut-être pas, notamment comparé au combat terrestre. Et d'abord dire que, première chose assez basique, mais donc qu'il faut rappeler, c'est cher. C'est très cher, un navire. C'est long à faire, c'est long à refaire, c'est long à réparer. Et donc, c'est extrêmement précieux. Et de ce point de vue-là, en fait, tout s'articule aussi autour de cette difficulté à remplacer des navires, parce que ça implique donc de les économiser. Je ne sais pas qui veut... François-Olivier Cormand ?
Oui, je pense que le sujet technologique est clairement majeur, parce que justement, il faut se déplacer dans un milieu qui n'est pas le milieu naturel. C'était le maréchal Foch qui disait les marins, vous êtes des serruriers, c'est-à-dire, il disait, vous êtes en permanence à faire des petits réglages et à jouer de la clé à molette. On a effectivement, alors que c'était pas naturel au début dans un livre qui était plutôt orienté sur la tactique, voulu placer, enfin dédier un chapitre complet au sujet de la technologie. parce qu'il y a un lien qui est très très fort avec la tactique navale, et ensuite parce qu'il nous a semblé qu'aujourd'hui, à l'heure où la technologie est finalement une réponse, pas facile, mais en tout cas une réponse communément admise, on nous a paru important d'essayer, là encore, d'aller plonger dans l'histoire pour montrer que tout n'était pas aussi simple, et que la technologie n'était pas forcément la réponse à toutes les questions, alors qu'elle est pourtant indispensable et qu'elle l'a toujours été. Et donc, oui, une flotte c'est cher, une flotte c'est aussi très long à construire, et ça a été le cas historiquement, et ça reste le cas aujourd'hui, ce qui pose des questions d'homogénéité des flottes qui sont très compliquées. C'est surtout, je crois, le plus important, c'est qu'il y a des risques dans lesquels la technologie peut très vite attirer une flotte dans des impasses. Et ça c'est ce qu'on voit très clairement dans l'histoire. Il y a par exemple une recherche de la surprise. On cherche souvent à avoir l'arme qui va surprendre tout le monde, etc. On se rend compte historiquement que c'est très difficile et que la surprise ne dure pas très longtemps, et que souvent en fait la surprise technologique va être plus la sous-estimation ou plutôt un manque d'anticipation. Si on prend par exemple l'histoire du sous-marin, quand le sous-marin apparaît et quand le sous-marin joue un rôle crucial pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, notamment le sous-marin allemand, en fait tout le monde avait bien vu venir ce problème des sous-marins. C'est juste qu'on n'avait pas du tout anticipé qu'on allait devoir lutter contre des meutes de sous-marins allemands, et pourtant cette surprise elle est souvent d'une durée très faible. C'est l'exemple de la bataille de Hampton Roads, vous savez, c'est en 1862, vous avez les sudistes qui arrivent dans la baie d'Hampton Roads avec un des premiers cuirassés, et puis qui défont la marine nordiste, et là tout le monde croit que ça y est, la surprise technologique elle permet de remporter une très grande bataille. Et en fait dès le lendemain vous avez les nordistes qui alignent un bateau quasiment équivalent, et en fait les deux bateaux vont se canonner pendant toute la journée, et finalement la surprise aura duré 24 heures. Et donc en fait voilà, il y a plusieurs petits écueils comme ça qui sont un peu faciles. Un autre écueil c'est la recherche d'une flotte idéale qui va résoudre tous les problèmes, qui va finalement être un miracle technologique, alors qu'en fait on se rend compte aujourd'hui que c'est un petit peu un mirage. On n'aura jamais une flotte parfaite, et le marin sera toujours obligé de se battre avec des équipements qui vont tomber en panne d'un côté, qui vont devoir marier des technologies différentes parce que justement c'est très long, et donc le marin ne pourra jamais accorder une confiance excessive dans la technique. Le bon marin finalement c'est celui qui arrivera à faire avec ce qu'il a, et il y a de très nombreux exemples qu'on cite dans le livre qui nous ont passionnés. C'est par exemple le héros qui était le vaisseau phare de Suffren pendant sa campagne victorieuse des Indes. Son prédécesseur lui avait écrit sur le rapport.
C'est le baillet de Suffren.
Le baillet de Suffren.
Donc c'est la guerre du Naval au XVIIIe siècle, et c'est l'un des grands commandants français qui a notamment beaucoup gêné dans l'océan Indien les Britanniques.
Voilà, et donc son professeur lui avait dit, en lui donnant le bateau, c'est un bateau qui est nullement propre à faire la guerre. Voilà. Et pourtant, Suffren arrive à remporter des batailles qui ont été décisives. Donc en fait, voilà, il n'y a pas de déterminisme, ce n'est pas forcément la technologie qui va dicter l'issue du combat naval.
Ouais, et on peut dire que les casses navales sont pleines de navires révolutionnaires qui n'ont pas marché. On peut citer de ce point de vue-là, par exemple, l'exemple qu'on cite souvent, c'est les Zumwalt. Donc c'est cette classe de patrouilleurs côtiers relativement légers que les États-Unis avaient développé à grands frais il y a quelques décennies, et qu'ils ont fini par abandonner. Enfin, ils sont encore là pour une grande partie, mais ils ont fini par considérer que ça coûtait trop cher pour ce que ça rendait comme efficacité.
Alors, plus que ça, alors les Zumwalt, c'est des bateaux qui sont très gros, mais ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que les Américains ont préféré effectivement arrêter cette série et revenir à la série d'avant en l'améliorant considérablement.
Donc les Ticonderoga.
Non, alors plutôt la classe Harley Burke, qui est une série de bateaux qui date des années 80, et qui finalement a été upgradée en quelque sorte pour dépasser aujourd'hui les 70 exemplaires. Et en fait, c'est aussi une des illustrations très concrètes de ce qu'on cherche à dire, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'innovation navale, c'est plus la recherche du mieux que la recherche du plus. C'est-à-dire que l'innovation cumulative va souvent être plus efficace que l'innovation de rupture brute et sèche, qui est beaucoup plus risquée. Voilà, c'est un des exemples de ce qu'on tire de nos exemples d'histoire.
Je vais rebondir là-dessus, Thibault Laverne.
En fait, je voulais revenir au début de la question. Du coup, oui, effectivement, les flottes, ça coûte historiquement très cher. C'est pour ça que les puissances navales, en tout cas océaniques, sont assez rares dans l'histoire. C'est même pour ça qu'un pays comme la France est cartelé entre ses façades maritimes et ses ennemis situés parfois plus sur le continent, a dû faire des choix, et même au sommet de sa puissance, n'a pas réussi à entretenir dans le temps une marine de très haut niveau, même si elle avait tout à fait conscience des enjeux maritimes. Et donc ça nous ramène tactiquement à quelque chose de fondamental, qui est que le combat naval, il est décisif. On en reparlera un peu après, mais globalement, quand vous balayez de la surface, de la mer, l'escadre ennemie, le temps de régénération, il se compte pas en années, il se compte en décennies. Donc ça veut dire que l'avantage que vous remportez, stratégique, en coulant tactiquement la flotte ennemie, il est énorme. Et ça, c'est un des effets de levier de la tactique navale qu'on développe dans l'ouvrage.
Mmh. Alors, entrons peut-être un peu plus dans le détail sur qui, que sont ces bâtiments. Alors, on en a parlé un peu, on en a évoqué quelques-uns, le porte-avions, les croiseurs, etc., les cuirassés à certains moments. Mais ce que c'est intéressant, on a commencé cette émission en parlant de la guerre navale de l'époque moderne. Bon, c'est très simple, à l'époque moderne, les navires ont les classes, il y avait des vaisseaux de premier rang, de deuxième rang, de troisième rang, etc., en fonction du tonnage, en fonction des capacités et les canons. Enfin, il en découle un certain nombre de choses assez logiques selon la catégorie dans laquelle vous rangez votre navire. Ça a évolué, évidemment. Il y a eu une période où les plus gros navires sur l'eau, c'était les dreadnoughts, les cuirassés, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt les porte-avions. Mais du coup, est apparu dans la littérature et même dans la pensée stratégique, capacitaire, disons, et stratégique, cette notion de, il y a toujours à chaque époque un capital ship, c'est-à-dire un navire essentiel, un navire qui est puissant, un navire qui domine, et ensuite tout s'articule autour de celui-là. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est peut-être dans un moment où ce paradigme-là, il faut peut-être le réinterroger. Voilà. Est-ce qu'un porte-avions aujourd'hui, c'est le capital ship, est-ce que c'est la pièce maîtresse, disons, de la guerre sur mer au 4e et au 5e âge du combat naval? Ou, parce qu'on peut le dire tout de suite, mais un porte-avions, ça a des immensément de qualités, c'est pas vous que je vais le dire, mais ça a aussi une certaine vulnérabilité qui est réelle, que n'avaient pas forcément les capital ship à d'autres époques, en tout cas vulnérabilité comparative. Donc, si on essaye de faire en quelque sorte cette hiérarchie des animaux qui se battent sur l'eau aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouverait au sommet de la chaîne alimentaire?
Oui, alors effectivement, dans le livre, on essaye de dégager un peu au-delà du visage changeant des flottes, les grands principes qui animent tout ça. Donc la classification qu'on fait, c'est une classification conceptuelle. On a vraiment besoin de ça, parce que le marin, c'est un peu ce que disait François-Olivier, peut vite s'aveugler avec l'art nouvelle, le nec plus ucra, voir des capital ships partout là où ils ne le sont pas. Or, quand on revient aux grands équilibres, on voit bien qu'il y a quand même des choses assez stables. Donc maintenant, les capital ships, puisque c'est le nom anglo-saxon qu'on a conservé parce qu'il parle bien, à l'imaginaire, c'est la pièce centrale dans une partie de la conflictualité navale qui est la guerre d'escadre, dont j'ai parlé un petit peu avant. Donc là, c'est la pièce centrale qui permet d'emporter la décision sur mer pour...
Donc la guerre d'escadre, c'est deux grandes flottes.
Voilà, c'est l'affrontement des volontés en mer dans l'objectif de gagner la maîtrise de la mer avant de l'exploiter. Voilà. Historiquement, le capital ship, quand on commence il y a quelques siècles au départ de notre livre, bon, très clairement, c'est le vaisseau de ligne. Le vaisseau de ligne, on a parlé du héros, de ce frein tout à l'heure, mais globalement, c'est ce vaisseau qui permet à la fois d'être une plateforme de commandement et en même temps d'empiler les canons sur deux, parfois trois ponts, et donc de concentrer le feu, de délivrer le feu, et c'est lui qui, dans la bataille, va ensuite emporter la décision par le feu, puis par le choc, puisque souvent ça se finissait par des abordages, et donc la masse que vous mettiez sur ces bateaux-là, pour ensuite passer à l'abordage, permettait souvent par le nombre d'aller écraser le camp d'en face. Typiquement Trafalgar, c'est en grande partie ce qui se passe. Le capital ship ensuite, je reviens à ce que je disais au départ, donc l'ère du canon, on voit bien que la pièce centrale, ça devient le canon, et donc le cuirassé s'impose, parce que c'est lui qui va, dans cette guerre d'escadre, emporter la décision, par la puissance de feu qu'il va délivrer au loin, avec le plus de précision possible, le plus de cadence de feu possible. Et donc, quand vous supprimez de la carte le cuirassé d'en face, en fait, vous avez toucher son centre de gravité, et derrière tout s'écroule. C'est pour ça qu'il y a eu notamment en France tout un courant de pensée à la fin du 19e siècle de la jeune école, qui pensait qu'on allait pouvoir taper le centre de gravité avec des torpilleurs, donc avec l'arme de la torpille, qui apparaît à ce moment-là dans les années 1860, où on se dit ce truc-là va nous permettre de résoudre le problème du capital ship en allant le taper directement sous la ligne de flottaison. Bon, évidemment, l'histoire a montré que...
Ça, on peut juste faire une petite incidence. C'est marrant, l'histoire de la jeune école, ça montre quand même très bien les dangers qu'il y a à se croire toujours plus malin que les autres. C'est ce moment où la pensée stratégique française s'est dit, bon bah voilà, il suffit pour ne plus perdre les gros bateaux, il suffit de plus en faire et d'avoir que des petits bateaux. On réussira quand même à éventuellement à toucher les gros bateaux, et puis surtout toutes les pertes seront remplaçables. On va faire des norias de navires, etc., qui vont permettre de hyper bien contrôler nos côtes. Moyennant quoi, ça a été une impasse totale sur laquelle on est revenu à grands frais. Mais ça montre bien ces moments où on a l'impression d'avoir une idée géniale et où tout va changer, il faut tout changer d'un coup. Souvent, ça vaut le coup de prendre le temps et de respirer un peu avant de se lancer dedans.
Et ça montre aussi du coup la résilience du capital ship, mais ça, on pourrait y revenir après. Et donc, ensuite, ce capital ship devient, avec l'air de l'avion, donc le porte-avions, puisque c'est lui qui, dans la guerre d'escadre, va concentrer la puissance, la capacité à reconnaître et à frapper au loin. S'impose une autre forme de capital ship au XXe siècle, qui, je pense, peut être considéré aussi comme un capital ship, qui est le sous-marin nucléaire. Donc, sous-marin nucléaire au sens à propulsion nucléaire, parce que si lui, pour le coup, il n'est pas capable d'aller exploiter l'espace maritime, parce qu'en fait, il n'est pas fait pour ça, en revanche, il est aussi capable d'aller emporter largement la décision en mer. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas un capital ship, en réalité, il y en a plusieurs. Donc globalement, aujourd'hui, le porte-avions, effectivement, qui par la confluence de la puissance aérienne, de la puissance navale, par sa capacité d'adaptation, on pourra y revenir, c'est comme les cuirassés d'ailleurs, hein, ils se sont adaptés pendant très longtemps. Et puis d'un autre côté, donc le sous-marin nucléaire, c'est un peu les deux capital ships aujourd'hui. On ne prophétise pas dans notre ouvrage non plus, on ne dit pas quel sera le capital ship de demain. Ce qui est certain, c'est que le critère du capital ship, et je finirai par ça, c'est bien celui qui emporte la décision dans la guerre d'escadre. Voilà. C'est pour ça qu'un bâtiment amphibie, par exemple, ne sera jamais un capital ship. Ce sera une unité précieuse, évidemment, parce qu'il va falloir la défendre, et c'est elle qui va permettre d'aller débarquer et d'emporter la décision à terre. En revanche, ce n'est pas un bâtiment amphibie qui emporte la décision en mer, ça n'est pas sa vocation.
Et c'est intéressant parce que, bon, on peut dire, donc il y a le Charles de Gaulle, prenons la marine française, c'est un bon exemple. Il y a le Charles de Gaulle, qui, évidemment, tout ce qu'on sait, puis en dessous, les deuxièmes plus grands navires de la marine nationale, c'est la classe Mistral, donc Mistral, Tonnerre et Dixmude, qui sont pas du tout des navires offensifs, enfin qui sont des navires qui sont des navires de commandement, de projection, de débarquement amphibie, qui sont très gros, enfin je veux dire c'est les deuxièmes en taille, c'est bien plus gros que tout le reste, mais ce qui montre bien que ça a un intérêt, que ça a une utilité, que on s'en sert pour être les centres névralgiques d'opérations combinées, etc., etc. Mais pour autant, ça rentre donc pas dans la définition possible du capital ship. François-Olivier Cormand ?
Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, et on essaye d'y revenir parce que c'est un enseignement qui est un petit peu ancien, qui s'appelle la liaison des armes, qui a été théorisé par l'amiral Castex, qui était un amiral du XXe siècle, qui aujourd'hui revient à la mode parce que finalement c'est le principe de dire que toutes les armes doivent dialoguer entre elles, qu'elles soient plus anciennes ou très modernes, que c'est finalement l'emploi coordonné de toutes ces armes qui va permettre de remporter la victoire en mer. Ça redevient moderne aujourd'hui parce qu'on parle de connectivité, de combat collaboratif, voilà, toutes ces expressions.
Et vous le dites à un moment, on n'a pas eu le temps d'en parler vraiment, mais c'est un truc, une grande constante du combat naval aussi, c'est que c'est rarement la puissance des feux d'un bâtiment qui opporte toute la décision. Généralement, c'est la capacité à se coordonner et à concentrer les effets plus que un navire qui l'emporte tout seul la décision.
Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait cette notion de capital ship, elle est très importante, mais elle est quand même à relativiser d'une certaine manière, parce que par exemple le porte-avions aujourd'hui dont on vient de parler, il n'est rien sans son groupe aéronaval. Aujourd'hui, un groupe aéronaval du porte-avions, c'est quelque chose qui est... Le porte-avions ne se déplacera jamais sans son groupe aéronaval, c'est-à-dire sans... parce qu'il faut le rappeler souvent, un sous-marin nucléaire d'attaque sous les mers, un pétrolier ravitailleur, deux, trois frégates, etc., etc. Et ce sera...
Il ne se déplacera jamais sans, parce que sinon il ne se déplacera pas longtemps, parce qu'on l'a déjà dit, mais c'est le porte-avions a peu de contre-mesures face à un certain nombre de missiles, notamment.
Pas seulement, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est conçu pour naviguer ensemble et qui est efficace dans, justement dans l'union de toutes ces capacités complémentaires. Et c'est un peu ce dont vous parliez avec les porte-hélicoptères amphibies, c'est-à-dire c'est des bateaux peut-être qu'ils n'ont pas l'étiquette de capital ship, mais cette étiquette est-elle vraiment importante? Alors on pourrait dire oui, le futur capital ship est à la page 137, vous verrez, ça, on ne vous dit pas lequel c'est.
Ça va faire grimper les ventes.
Oui, peut-être.
Peut-être c'est la page 137, peut-être ce n'est pas la page 137, il suffit pas de l'ouvrir, il faut le lire en entier pour savoir.
C'est ce qui a bien, c'est plutôt la dernière page. Mais cette notion de liaison des armes, elle est très importante. Une des batailles qui est marquante pour ça, c'est la bataille de Tsushima. Donc c'est une bataille qui se déroule en 1905 et où le Japon va défaire une flotte de cuirassés russes entre la Corée et le Japon. Et en fait, pourquoi est-ce que les Japonais gagnent? Alors, ils gagnent en partie parce que les Russes sont épuisés par un périple gigantesque, mais ils gagnent aussi parce que l'amiral japonais va parfaitement articuler l'emploi de ses cuirassés et de ses torpilleurs. Et il va finalement absorber le premier choc par les cuirassés. Dès que la nuit tombe, il va faire agir ses torpilleurs et les cuirassés vont aller se ravitailler, etc., en munitions. Et ensuite, le lendemain, dès que le jour va se lever, il va faire revenir, etc. Et ça, c'est une constante. Et on voit des grandes batailles de la guerre de la marine à voile qui sont remportées parce que le chef d'escadre a réussi effectivement à gagner avec ses vaisseaux, mais il a réussi à faire intervenir à un moment crucial des brûlots, qui sont des petits bateaux auxquels on met le feu et qu'on jette contre les coques des navires, qui est un moyen qui est finalement très rudimentaire, très, très ancien et moins compliqué qu'un grand vaisseau à voile. Et en fait, c'est l'articulation de ces différentes armes qui va produire des effets.
Oui, pour compléter, du coup, pour revenir à votre point sur la partie amphibie, deux choses. La première chose, c'est que typiquement l'amphibie, on est dans l'exploitation. On est dans comment je rentabilise ma maîtrise de l'espace aéromaritime pour produire des effets, en l'occurrence à terre. Donc c'est pour ça qu'on sort, en fait, de la guerre d'escadre. Et comme disait François-Olivier, tout ça forme un grand tout à la fin où chaque bâtiment a un principe actif. Ce qui fait qu'on le classe dans une espèce de catégorie qui revient à son principe actif. Mais à la fin, le succès en mer, évidemment, ça n'est pas qu'un principe actif qui agit. C'est plusieurs typologies qui, toutes mises ensemble, permettent d'emporter la victoire. Et pour terminer sur ce que disait François-Olivier sur le groupe aéronaval, en fait, le groupe aéronaval, dans les questions que vous posez, vous l'analysez beaucoup en termes de la capacité à se défendre. Mais ce n'est pas ça la première question à se poser. La question à se poser, c'est quelle est sa mission? Quels sont les effets qu'il va produire? Et quand on agrège plusieurs capacités autour du porte-avions, la question, ce n'est pas se défendre. La question, c'est quels effets je vais produire? Et en l'occurrence, on en revient au caractère offensif du combat naval, qui est son principe premier sur lequel on pourra revenir après. Et en fait, c'est bien ça le sujet. C'est que les missions qu'on confie à tous ces bâtiments rassemblés ensemble, en fait, leur efficacité, elle est décuplée pour produire les effets.
Justement, parlons-en. Donc, cette nature du combat naval, en tout cas la bonne manière de faire le combat naval, il y a que vous théorisez, c'est donc qu'il y a une nécessité de l'offensive. Il y a une nécessité qui va à contre-pied de Bah, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais de la doxa héritée de Clausewitz pour le combat terrestre, où l'idée c'est que le terrain est un avantage, donc quand on tient le terrain et quand on est sur la défensive, bah, on peut le lâcher progressivement, etc. Et puis d'une manière générale, c'est un grand avantage sur l'offensive. Or, comme vous l'avez dit à un moment, c'est un milieu fluide, donc il n'y a pas vraiment de terrain à tenir, en tout cas on peut pas planter ses talons dans la terre, parce qu'en mer, on recule quand on fait ça. Et donc, paradoxalement, ou pour renverser la situation par rapport à cette doxa terrestre, en fait, dans le combat naval, c'est l'offensive qui domine toujours, quoi qu'il arrive, selon vous. Thibault Laverne ?
Oui, c'est effectivement un des grands enseignements de l'histoire, et qui s'explique assez bien quand on en revient aux caractéristiques du milieu et aux grands équilibres du combat naval. Alors, globalement, dans le livre, on essaie d'expliquer justement ces rapports entre l'offensive et la défensive au niveau tactique. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'au niveau stratégique, les équilibres ne sont pas forcément les mêmes. Il peut y avoir des postures stratégiques très défensives dans lesquelles vous allez inclure des actions tactiques qui, pour le coup, sont offensives. Et vous pouvez avoir des grands acteurs qui ont une démarche générale qui est défensive au plan stratégique et qui emporte la décision. Maintenant, nous, on se passe vraiment au niveau tactique. Et donc là, qu'est-ce qu'on observe ? Ce qu'on observe, c'est que, compte tenu des caractéristiques du milieu, qui est un milieu fluide, qui est un milieu global, qui est un milieu où tout change rapidement, et où on ne peut pas s'appuyer sur du terrain pour valoriser l'action défensive, c'est bien l'activité positive, au sens « je veux produire un effet, non pas empêcher quelque chose, mais faire que quelque chose se réalise », qui doit être le principe fondamental, parce que c'est ça en fait qui permet de construire de bonnes bases. Pourquoi ? La première raison, c'est parce que, on l'a vu, avoir une approche purement défensive, déjà en termes de moyens, en mer, dans ce milieu tridimensionnel assez hostile, ça va vous imposer un effort extrêmement important en termes de moyens mobilisés. Et donc, si vous focalisez uniquement sur la partie défensive, dans une posture passive, déjà non seulement votre principe actif, les effets que vous produisez seront proches du néant, et en plus, vous allez passer votre vie à vous poser la question de savoir comment je vais me défendre. Donc déjà, intellectuellement, vous vous mettez dans une posture défavorable. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est que... Et ça, on y reviendra un petit peu après, sur les caractéristiques du combat naval, mais globalement, la capacité tactiquement à engager en premier, c'est elle qui va faire basculer la balance la plupart du temps dans le combat naval. Et donc, si vous n'allez pas chercher, dans une approche offensive, cette capacité à porter le premier coup, naturellement, vous allez vous mettre dans une position difficile que vous aurez beaucoup de mal à rattraper par la suite en passant d'une posture défensive à une posture offensive. Donc ça veut dire que l'offensif, il faut y être dès le départ. Et puis il y a un dernier point en fait qui est quasiment ontologique, c'est l'activité des forces navales, c'est-à-dire qu'en mer en fait vous ne pouvez pas être inactif, c'est pas possible. Le seul endroit où vous êtes inactif globalement, c'est quand vous êtes au port. Or une flotte qui est au port, elle ne sert absolument à rien. Éventuellement elle peut avoir un rôle dissuasif au plan stratégique, hein. Donc là il y a plein d'exemples historiques qui montrent que les escadres, même quand elles sont murées dans leur port, c'est la théorie du fleet in being, c'est-à-dire la flotte en vie, la flotte qui existe, qui produit des effets stratégiques, mais sur le plan tactique, en fait, son efficacité est nulle. Donc ça, c'est l'immobilité. En mer, en fait, vous êtes condamné à l'activité, vous êtes condamné à la mobilité. Donc, globalement, d'un point de vue conceptuel de tout ce que j'ai dit, en mer, vous devez prioritairement, sur le plan tactique, chercher à avoir une posture offensive, c'est-à-dire à faire en sorte que les choses se réalisent, à prendre l'initiative, à s'imposer, plus que d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose en attendant qu'il prenne l'initiative.
D'autant que, mais ça se corrèle avec un autre point que vous soulevez qui est très intéressant, c'est que vous soulignez qu'il y a une sorte de renoncement nécessaire à un éclairage tactique total qui n'arrivera jamais. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a une sorte de mentalité offensive qu'il faut avoir, mais mentalité qui doit aussi pouvoir s'affranchir un peu de ce désir. On en parlait un peu au début, mais cette idée que l'espace maritime étant plus ou moins plat, on devrait pouvoir voir les choses, on devrait pouvoir savoir, on devrait pouvoir avoir, disons, une carte de bataille à peu près complète avant de se lancer dans l'action offensive. Non, ce que vous indiquez, c'est que l'espace étant comme relativement opaque pour tout un tas de raisons dont on a commencé à parler, il faut quand même renoncer à cette espèce de mirage que on va pouvoir avoir une vision complète et que, d'une manière générale, vous relevez un certain nombre d'exemples de combats navals où, globalement, ça marche parce que il se lance. À un moment, faut se lancer. Faut pas non plus attendre éternellement parce que sinon, justement, on est condamné dans ces espèces de postures attentistes à avoir toujours cet éclairage tactique supplémentaire qui souvent n'arrive jamais. Je sais pas qui. François-Olivier, comment ?
Je pense que ce que vient d'expliquer Thibault, c'est ce qui nous a conduit à finir en fait ce livre sur le leadership, c'est-à-dire les qualités que doit avoir le chef naval. Parce qu'en fait, à partir du moment où on dit que l'offensive est vraiment la façon de remporter un combat naval, en fait la conséquence immédiate, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la prise de risque va être nécessaire, et donc l'audace va être une qualité majeure pour le chef naval. Alors que aujourd'hui, plusieurs éléments montrent que il n'y a pas grand-chose qui va le prédisposer à l'audace. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu... ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les éléments tactiques, tous les éléments technologiques menaient, alors qu'on aurait pu justement se dire, ça y est, c'est terminé, l'IA aura remplacé le chef de guerre naval. Finalement, on s'est rendu compte, et ça a été une découverte en marchant comme ça, mais qui était intéressante, de se dire, mais en fait, tout arrive au fait que les qualités humaines vont être décisives, et peut-être plus décisives encore que par le passé, et que dans ces qualités, alors qu'on a essayé de rassembler au nombre de trois, il y en a une qui est très importante, qui est l'audace, et cette audace qui, dans l'histoire, a effectivement, et cette prise de risque, qui a effectivement en fait été un caractère, enfin, quelque chose qui a traversé, encore une fois, l'histoire du combat naval. C'est très très frappant.
Tu peux la voir ?
Oui, alors effectivement, l'état d'esprit du chef est décisif, on pourra y revenir. Moi, je reviens sur ce que vous disiez sur les affaires d'éclairage. Très clairement, l'éclairage, on monte dans le livre, c'est une préoccupation majeure dans la guerre navale, et c'est un domaine dans lequel il n'y a jamais assez de moyens. Et on l'a encore vu hein, dans les exercices qu'on fait régulièrement dans les marines occidentales. Il y a un besoin pour pouvoir décider, pour pouvoir passer à l'offensive, de maîtriser les choses, et parfois, parce que pour frapper, vous avez quand même besoin de savoir où sont les autres et comment frapper, donc là, il y a quand même un seuil minimal d'information à avoir, mais souvent, on va au-delà de ce seuil minimal, avec une volonté de surmaîtrise, d'avoir un champ de bataille parfaitement éclairé, et c'est là qu'il y a un équilibre tactique à trouver. Et les chefs de guerre audacieux qui ont su prendre des risques et qui ont su emporter la partie derrière, souvent ont trouvé cet équilibre dans l'information, dans la juste information. Ça, c'est un point qu'on fait vraiment sortir dans l'ouvrage sur le côté relatif du combat naval. C'est-à-dire que on a cherché dans les marines occidentales, depuis les années 90, globalement à faire de l'absolu, c'est-à-dire à être parfaitement formé dans tous les domaines, à prendre des décisions parfaitement documentées, alors de plus en plus vite, hein, avec un tempo de l'information qui s'accélère, mais sans se poser la question, mais finalement, de quelle information j'ai besoin. Or, la guerre navale vous montre qu'il suffit d'être mieux informé que l'ennemi, et parfois dans un espace-temps très restreint. On prend l'exemple des Japonais et des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, exemple qu'on cite souvent parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, mais globalement, les Japonais arrivent à tirer pendant les combats de 42-43 leur torpille Longlands qui portait à 35 km sur les bâtiments américains en se contentant d'avoir un vague relèvement, c'est-à-dire un azimut des bâtiments américains, sans avoir de distance, sans être vraiment sûr de sur quoi ils tiraient, en voyant parfois même un simple flash lumineux dans la nuit en se disant « Tiens, les Américains tirent au canon dans tel azimut, je tire une torpille. » Et en fait, ça suffit. Ils tiraient leur salve de torpille, il y en avait quelques-unes qui tapaient les bâtiments américains, et les bâtiments américains qui, eux, attendaient d'avoir les Japonais parfaitement au radar en portée de leur canon, et ben en fait, étaient coulés bien longtemps avant. Donc ça vous montre que cette information qui est nécessaire à la décision, elle doit être juste suffisante. Et aujourd'hui, avec le retour du combat naval, il faut qu'on arrive à mieux penser cette relativité et à se dire de quoi ai-je besoin pour revenir à l'essence du combat naval, qui est notamment de frapper en premier de manière effective et décisive.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, vous avez une sorte de résumé en trois caractéristiques pour le combat naval contemporain qu'il faut peut-être poser à un moment. C'est donc un combat naval qui doit être rapide, qui doit être destructeur et qui doit être décisif au sens où il doit y avoir une relative impossibilité pour l'ennemi de se régénérer à l'issue du combat.
Alors cette trilogie, En fait, c'est pas qu'elle doit être, c'est qu'elle est, tout simplement. C'est-à-dire que le combat naval est comme ça. Pourquoi on le pose ? Parce qu'on se rend compte que quand on lit les analyses des combats navals contemporains, au XXe siècle, beaucoup de gens pensent voir des ruptures en se disant les équilibres sont modifiés, ça y est, donc c'est l'effet arme nouvelle dont parlait François-Olivier tout à l'heure. Alors qu'en fait, très souvent, c'est une des manifestations de cette trilogie. Un combat naval qui est tout simplement rapide, destructeur et décisif. Très simplement, pour balayer un petit peu ces adjectifs, donc rapidité, elle est liée au milieu, elle est liée au fait qu'on arrive à concentrer très rapidement de la puissance et des moyens dans un espace qui est lisse et dans un espace qui est fluide. Et elle est liée également aux armements employés, qui fait que, voilà, à l'ère du canon, de l'avion, puis du missile, globalement, le pouvoir destructeur des armes qu'on met en œuvre, leur rapidité de mise en œuvre, fait que la décision est très rapidement emportée. Donc ça, c'est la rapidité. Quand vous regardez les combats navals depuis Tsushima, qui a été évoqué récemment, jusqu'à la perte du Sheffield en 82, tout se joue en l'espace de quelques minutes, voire de quelques heures. Et donc cette rapidité-là, c'est une constante assez forte du combat naval. Premier point. Deuxième point, il est destructeur. C'est-à-dire que la décision en mer, vous l'emportez par l'attrition. Hier, c'était beaucoup l'attrition des hommes. Hein, donc les bâtiments de haut bord à Trafalgar, où les bâtiments de Suffren, globalement, s'arrêtaient quand il n'y avait plus d'hommes pour combattre. Donc là, on avait une attrition des hommes, et les bâtiments continuaient à flotter, même s'ils étaient dématés. De plus en plus, avec le temps, on est arrivé à la destruction des machines, et on arrête de se battre quand les machines sont coulées au fond de l'eau. Sauf que le principe, c'est le même, c'est que le combat naval, il est destructeur. Là où dans le combat terrestre, vous pouvez emporter les décisions par la manœuvre. Il est possible, comme dans les grandes campagnes napoléoniennes et comme aujourd'hui dans le combat terrestre, d'arriver à emporter les décisions, tout simplement parce que l'ennemi a été surmanœuvré, a été encerclé, et donc là, le combat s'arrête, la décision a été emportée. Ce qui n'est pas le cas en mer. Et vous avez une dernière caractéristique, qui est que le combat est décisif, et là il y a deux aspects. Il y a l'aspect dont j'ai déjà parlé, qui est un aspect un petit peu stratégique, conséquentialiste, qui est de dire, bah, une fois que vous avez balayé la mer de l'escadre ennemie, globalement, vous avez emporté les décisions, et pour très longtemps, des années, voire des décennies. Mais il y a aussi un aspect, et ça c'est le cœur de notre chapitre 4, qui est un aspect en fait beaucoup plus tactique, qui est lié au fait que quand vous commencez à taper, quand vous prenez l'initiative de la frappe, de l'attrition, et ben, en fait, vous commencez à emporter les décisions. Comme le disait Ambroise Baudry, un lieutenant de vaisseau qui écrit un siècle avant nous, quand la balance penche en mer, elle penche très rapidement. Et c'est ce qu'on montre dans nos petits encadrés là, sur les affaires de frappe en premier, à l'ère du canon, à l'ère de l'avion, à l'ère du missile, c'est qu'il y a une prime à la frappe en premier, et donc qui rejoint le côté décisif du combat naval.
Il faut peut-être aussi dessiner un peu des perspectives pour ce cinquième âge. Alors, on a compris que c'était difficile de l'identifier exactement, mais quand même, il y a cette hypothèse que c'est un âge de la robotique. Donc, c'est intéressant parce que ça rejoint évidemment beaucoup de choses qu'on lit et sur lesquelles on réfléchit aussi en dehors de la mer, sur la problématique du combat collaboratif, sur qu'est-ce qu'on fait des drones, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on appelle les effecteurs déportés, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir, c'est vrai à terre avec le programme Scorpion, c'est vrai dans les airs avec le SCAF, avec l'idée que, en fait, c'est pas forcément au même endroit qu'il y a la prise de décision, qu'il y a les capteurs et qu'il y a les effecteurs, etc. etc. Le fait est qu'on parle beaucoup moins souvent des drones navals, par exemple. On s'est mis à en parler un petit peu avec l'Ukraine, mais ça reste toujours assez limité par rapport à ce qu'on fait à terre et dans les airs. Donc, d'une part, comment est-ce qu'on caractériserait ce nouvel âge de la robotique, c'est-à-dire déjà où est-ce qu'on en est et quelles sont les perspectives? Et puis ensuite, on parlera évidemment des conséquences sur les manières de se battre, mais en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait caractériser peut-être l'état de ce cinquième âge à l'heure actuelle ? François-Olivier Cormand ?
Alors, sur les caractéristiques de l'âge dans lequel on rentre, il y a plusieurs grandes tendances. Bon, déjà, il y a une tendance majeure qui est liée à l'information. C'est un point qu'on développe. On est à changer de paradigme, on est passé de l'info poor, donc la rareté de l'information, à l'info rich, c'est-à-dire à l'infobésité, à un flot d'informations qui est énorme. Et donc ça part de la donnée. Hein, donc là, il y a toute une réflexion, tout un débat autour de la donnée dans le monde civil et puis dans le monde militaire et en particulier dans le monde naval. Et donc là, un des grands enjeux, c'est comment arriver à être correctement informé dans le combat naval, correctement avec deux points, en termes de vitesse et en termes de qualité. Et on montre dans l'ouvrage qu'il y a un vrai débat là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut être le mieux informé possible. Ça suppose de drainer un maximum d'informations, de données, de les élaborer, de les traiter. Donc c'est un peu la pyramide du renseignement qu'on explique dans notre ouvrage. Et ensuite, de les mettre à disposition d'un décideur le plus rapidement possible pour qu'il puisse ensuite prendre une décision qui soit pertinente. Là, il y a tout un champ du cinquième âge qui est tiré par plusieurs locomotives. La première locomotive, c'est celle de la gestion des grandes masses de données, qui est un premier point. La deuxième locomotive, c'est celle de l'intelligence artificielle, sur laquelle on pourra revenir, parce que derrière ce terme-là se cache en réalité beaucoup de choses. Et il y a une troisième locomotive qui est la taille des tuyaux de circulation de l'information, c'est-à-dire qu'effectivement, pour gérer beaucoup de données, quand on est loin en mer, bah, il faut des tuyaux qui nous véhiculent tout ça, soit de la mer vers les bateaux, soit des bateaux entre les bateaux. Donc là, globalement, on a tout un champ qui est un champ.
Et ça, rappelons, je le dis parce qu'on a fait il n'y a pas très longtemps une émission sur les câbles sous-marins, que l'inconvénient de la mer, c'est que pour le coup, il n'y a pas le choix, on est obligé de passer par satellite ou par d'autres voies plus directes, mais du coup, le moyen le plus efficace pour faire transiter de l'information à très très haute vitesse, qui sont les câbles et les fibres optiques, quand on est en mer, par la force des choses, ils sont absents, donc il y a une vraie problématique de taille des tuyaux qui se pose de manière plus acérée encore en mer qu'ailleurs.
Oui, exactement. Donc voilà, donc globalement, la cinquième âge, on a un gros enjeu sur la gestion de l'information à fin d'action. Alors, et c'est le pont entre l'information brute et l'action qu'on va retirer, voilà, là il y a tout un champ de réflexion, avec certaines idées reçues et d'autres au contraire qui sont assez fausses. Après, il y a un deuxième grand enjeu qui est lié au cinquième âge du combat naval, c'est tout simplement la dilatation qui se poursuit dans les effecteurs et dans les senseurs, c'est-à-dire notre capacité à voir les choses loin et notre capacité à agir loin. Et donc, il y a une grande tendance qui remonte au début de l'ère du missile et qui continue encore aujourd'hui, qui s'accélère, c'est donc la portée des armements, leur vitesse, hein, avec tous les débats sur l'hypervélocité qu'on retrouve aujourd'hui. C'est leur précision également qui n'a fait que croître, avec un vrai point de rupture dans les années 90, où là, globalement, l'armement de précision guidée se développe, et depuis, ça n'a fait que croître. Et ça, c'est couplé à une extension des capacités des senseurs, à la fois en termes de portée et à la fois en termes de capacité à traiter de l'information, qui fait que tout ça se dilate. Et donc là, il y a vraiment un enjeu au cinquième âge du combat naval d'arriver à en tirer parti et en même temps de s'en prémunir. Voilà. Il y a une autre porte aussi qu'on développe dans l'ouvrage au cinquième âge du combat naval, qui est celle du multimilieu multichamp, dont on parle souvent, dont vous avez déjà pu, j'imagine, parler, Alexandre, dans vos émissions, mais qui est cette espèce de changement qui fait que dans les années 90, globalement, on rentre dans l'ère de l'interarmée. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir des armées qui font leurs opérations de manière un peu juxtaposée. On rentre dans le stade de la coordination, voire de la symbiose, dans certains cas. Et donc là, il y a toute une doctrine, tout un système de formation, d'entraînement qui se met en place. Et ça, aujourd'hui, c'est bien installé. Au cinquième âge du combat naval, on rentre dans le multimilieu multichamp, c'est-à-dire c'est le step d'après, c'est comment on arrive à agir depuis un milieu, un champ, dans les autres, et comment on tire parti de l'autre milieu et de l'autre champ pour produire des effets dans mon milieu, et là de manière synchronisée. Donc très concrètement, ça veut dire quoi pour le combat naval aujourd'hui? Ça veut dire, au-delà des trois dimensions dont j'ai déjà parlé, c'est comment vous gérez le côté spatial, à la fois pour vous alimenter en information et en même temps pour pouvoir, vous, depuis la mer, surveiller le domaine spatial, ce qui est tout à fait envisageable aujourd'hui. Et puis, vous avez l'autre volet, c'est comment je fais en sorte de gagner un petit avantage dans un autre milieu, dans un autre champ, pour avoir un gros avantage dans mon milieu. Et donc là, il y a toute une partie qu'on développe également dans l'ouvrage, qui est ce que j'appelle l'effet papillon, entre les milieux et les champs, qui fait qu'un petit avantage que vous avez, par exemple, dans le champ électromagnétique ou dans le champ informationnel, qui peut vous donner un gros avantage dans le champ naval. Il y a plein d'exemples historiques. Hein. Je peux prendre, par exemple, la guerre du Kippour. On voit bien qu'un petit avantage dans le champ électromagnétique, ça peut rapidement faire basculer la balance. Hein. Donc là, ça, c'est les batailles qu'on raconte en 1973. Et puis, vous avez des exemples plus récents où, globalement, le fait d'aller maîtriser le champ spatial ou le champ informationnel, ça peut avoir directement des implications sur votre capacité à vous imposer, à vous imposer en mer. Voilà, donc ça, c'est trois gros enjeux qu'on développe et qui sont liés au cinquième âge du combat naval.
François-Olivier, comment ?
Et merci Thibault a développé du coup ce qu'est le cinquième âge du combat naval et ce qu'on a essayé de faire et ce qui est un petit peu risqué, mais on a essayé d'en tirer de définir quels allaient être en fait les facteurs de supériorité pour gagner dans ce cinquième âge. Et c'est là où on a pris peut-être le plus de risques. Mais on a essayé d'en tirer quelques conclusions. Je ne vais pas revenir sur toutes. Mais je pense que tout ce qui a été dit sur l'information, sur les drones, je rajouterai aussi l'effet falaise, c'est-à-dire que le cinquième âge du combat naval, c'est un âge aussi où on peut passer très très rapidement d'une technologie remarquable à plus rien. C'est-à-dire que si justement un des tuyaux dont vous parliez se coupe, en quelques secondes, il n'y a plus rien et on se retrouve avec des équipements qui sont finalement inopérants parce qu'on a perdu une liaison satellite et donc on revient finalement quelques années en arrière au bout de quelques secondes.
Ça, c'est un truc que vous détaillez, c'est intéressant parce qu'on en avait parlé à ce micro avec le général Burkhardt quand il était CEMAP. C'était son grand truc quand il était chef d'état-major de l'armée de terre, c'était une armée de terre qui puisse fonctionner en mode rustique, qui puisse fonctionner en mode dégradé, etc. Et effectivement, ça pose plein de questions dans un milieu et dans une arme aussi technologique que l'arme navale. À quoi ça ressemble ce mode dégradé, cette espèce de résilience quand la pointe du diamant, enfin quand la dernière couche technologique est dégradée, quoi.
Complètement. Et plus plus le niveau technologique s'élève, plus la falaise dont on va tomber le jour où justement un tuyau va être coupé, par exemple, va être haute. Et donc voilà, c'est tout cet ensemble-là qui nous a amené à nous poser ces questions. Et donc finalement, on a essayé d'en tirer quelques conclusions. Je ne vais pas toutes revenir, je vais revenir peut-être sur une ou deux. La première, c'est justement liée à la résilience, c'est que on va avoir besoin de marins qui doivent être capables d'être très agiles et d'être... Alors, il y a une expression qu'utilise la marine américaine, c'est à la fois des marins de la boîte de conserve et des guerriers de la puce de silicium. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très dur d'un point de vue ressources humaines. Former des marins de la puce de silicium, c'est très clair. Mais former des marins qui vont être aussi capables d'utiliser leur système de missiles alors qu'ils auront perdu le GPS, ils auront perdu une partie des sources d'approvisionnement électrique, etc., c'est très difficile.
Donc ça, c'est le fantasme de ce magnifique film dont on a fait une émission récemment qui s'appelle Battleship. Chef-d'œuvre pour dire que quand les aliens débarquent et crament tous les équipements de dernière génération, les cuirassés, les vieux canons, etc., ça peut être la résilience. Enfin, je veux dire, c'est un fantasme très américain, mais derrière ce fantasme très américain, il y a une vraie idée que l'analogique, il y a aussi une nécessité à... ça reste aussi de la ferraille qui peut fonctionner même sans surcouche informatique.
Et je pense que la meilleure preuve, vous citez Battleship, ce qui est très intéressant, c'est que les cuirassés américains qui sont devenus des vedettes grâce à ce film ont été des bâtiments qui ont été utilisés très tard. Et c'est les Marines qui avaient dit nous ne débarquerons pas si nous n'avons pas des cuirassés de cette classe-là derrière nous. Et c'est pour ça que ces bateaux ont été modernisés à très grands frais et que pendant la guerre du Golfe, ils étaient... ils avaient été modernisés pour pouvoir importer des missiles Tomahawk et ils étaient présents et c'était les seuls cuirassés. Ça a été les cuirassés finalement qui sont restés en service le plus longtemps dans le monde entier. Ce qui est paradoxal venant d'une nation comme les États-Unis qui essaient d'être à la pointe de la technologie. Ça, c'est une des premières conséquences. Une deuxième que je pourrais citer, c'est celle de la centralisation et de la décentralisation. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout peut tendre à la centralisation. C'est-à-dire que si on veut éviter un petit dérapage en mer, si on veut développer une stratégie de communication globale, si on veut conserver une cohérence, les systèmes informatiques permettent de centraliser toute la décision dans les mains d'une seule personne.
C'est-à-dire dans un navire amiral, voire même à Paris.
Voilà, exactement. C'est possible techniquement, c'est l'idéal. Et pourtant, on se rend compte que au cinquième âge du combat naval, la décentralisation, le fait d'avoir des personnes qui vont réfléchir, qui vont avoir des idées sur le terrain, qui vont avoir une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté d'action, en fait, c'est un luxe inouï. C'est extrêmement précieux. C'est ce qui va permettre parfois de surprendre, de prendre de l'avance, d'anticiper encore plus vite pour l'instant que pourrait le faire une intelligence artificielle. Voilà, ces deux exemples, mais Thibault voudra peut-être revenir sur d'autres. En fait, C'est ce qui nous a vraiment paru intéressant, c'est d'en tirer des conséquences qui ne sont pas seulement des conséquences de tactique, mais qui sont aussi des conséquences humaines.
Simplement, j'aurais aimé développer aussi, il y a derrière ce enfin, robot est un mot puissamment évocateur, mais il y a aussi l'idée que, eh ben, il pourrait y avoir bientôt, voire déjà, des navires sans hommes. Alors, ce qui est, vous le soulignez très bien, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura moins d'hommes dans le combat, ce qui veut dire qu'ils seront sans doute moins en première ligne, ce qui est tout à fait possible, mais ça, vous soulignez que eh ben, ça va avoir des conséquences si ça arrive, et ça arrivera probablement, notamment en termes d'abaissement du seuil, parce que du coup, ça ouvre vers une conflictualité, vers moins de peur, disons, d'ouvrir le feu, et vers aussi une évolution de passer peut-être vers un modèle un peu plus quantitatif, puisqu'on voit en Ukraine d'ailleurs que dès qu'on passe au drone, ça, on en utilise beaucoup, ça s'use très vite, et donc ça ouvre aussi des perspectives et disons, une économie des moyens légèrement différente pour le combat naval. Thibault Laverne.
Oui, Alexandre, tout à fait. C'est un point qu'on développe dans le livre. Alors, il y a plusieurs axes là-dessus. Il y a déjà un axe que vous avez évoqué sur l'abaissement du seuil de recours à la violence. Alors, évidemment, le milieu naval, on l'avait dit au départ, c'est déjà un milieu où la violence est tentante, entre guillemets, comme mode de résolution des différends. Alors, en plus, quand vous mettez des drones, du coup, vous abaissez le seuil. Il suffit de voir ce qui s'est passé à la fin de la décennie 2010, là, notamment au Moyen-Orient, là, entre les Américains et les Iraniens, ça vous montre bien qu'aujourd'hui, tirer sur un drone, voilà, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus abordable en termes de seuil que tirer sur un aéronef habité. Ça, c'est un point évident. Après, sur le retour de la...
Pour le dire clairement, quand les Iraniens ont abattu un Reaper dans le Golfe Persique, c'est pas sûr qu'ils auraient fait la même chose avec un F-22 ou un F-16,
oui,
ou n'importe quoi.
Exactement. Et vous pouvez prendre l'exemple récent aussi en mer Noire des avions de chasse russes qui viennent aveugler, voire quasiment rentrer en collision avec un drone américain.
Pas quasiment, ils sont bien entrés en collision. Après,
ça vous montre bien qu'en fait, la violence est tentante. Après, il y a un autre point fondamental qui est le retour effectivement du nombre. On l'a montré dans notre ouvrage, quand on prend la fameuse équation de la salve, qui permet de modéliser, mais je trouve de manière assez pertinente, l'évolution des forces dans un engagement pulsatile, donc de salve, de missiles entre deux flottes, on voit bien que dans cette équation, il y a plusieurs points fondamentaux, notamment il y a le rôle de la masse. Le rôle de la masse, c'est-à-dire le nombre d'effecteurs qui peuvent mettre en œuvre un armement, donc ici en l'occurrence un missile. Et donc ce facteur masse, donc nombre d'effecteurs, il a un rôle déterminant notamment pour absorber les erreurs tactiques. C'est-à-dire que quand vous êtes maigre, vous avez un impératif, c'est d'être bon du premier coup. C'est-à-dire de tirer tôt, de tirer précisément et de neutraliser l'autre. Là, vous allez pouvoir compenser le fait que vous avez peu de masse. Maintenant, quand vous retrouvez de la masse, la conséquence immédiate, c'est que vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques, parfois d'encaisser une erreur tactique, parce que voilà, vous n'avez pas anticipé le comportement de l'ennemi, et ben, ça va vous permettre de vous relancer dans le combat sans être dans les cordes. Il y a un autre aspect qu'on développe, il y en a plein d'autres, mais je vais m'arrêter sur celui-là, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire que plus de drones, potentiellement même plus de drones autonomes, parce que quand on dit drone, en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être du drone téléopéré qui fait exactement ce que l'humain lui dit, et ça peut être du drone aussi qui est programmé, voire du drone intelligent, peut-être demain, qui aura un comportement peut-être irrationnel. Or, on l'a vu, le combat naval, il est assez instable.
C'est l'autre magnifique film qu'il faut citer, qui est Furtif. Pour les connaisseurs, c'est un drone aérien devenu fou. Bon, peu importe. Je suis nommé parce que c'est une discussion très sérieuse, donc j'aime bien balancer quelques nanars au milieu.
Je l'ai pas vu, Alexandre, mais j'irai le voir.
Je le recommande vivement. Allez-y.
Oui, donc la prévisibilité, c'est-à-dire que quand vous êtes face à des humains ou à des machines pilotées par des humains, globalement, il y a une rationalité qui est derrière tout ça. Demain, quand vous aurez des essaims de drones, par exemple, qui auront leur propre rationalité ou qui auront un comportement qui n'est pas celui que vous attendez forcément de la part d'un humain, ça va rajouter de l'instabilité dans le combat naval. Donc en fait, ce combat qui est naturellement instable pour plein de raisons, l'apparition du drone, voilà, ça va aussi rajouter ce côté un peu volatile, ça va l'exacerber.
Je vais juste ajouter, on n'a évidemment pas le temps de continuer, c'est un livre qui est beaucoup plus riche que ce qu'on a eu le temps d'en dire, même si je pense c'est déjà un contenu très riche. Notamment, vous avez des très belles pages à la fin sur un certain nombre de nécessités qu'il y a aujourd'hui et demain. Par exemple, vous avez vraiment des très belles pages sur la doctrine et sur l'importance que c'est d'avoir une doctrine efficace d'emploi, parce que vous dites que c'est la colle de la technique navale, etc. Donc, il y a vraiment 20 échelons, enfin 20 niveaux dans ce livre, et il faut vraiment le lire pour le lire et, j'allais dire, le digérer pour vraiment pouvoir infuser tout ça. Donc c'est un livre qui, je pense, ravira non seulement tous les officiers de marine en formation et déjà en activité, mais même plus largement, hein, ça se lit très bien, d'autant que c'est très, je l'ai dit, mais il y a des histoires, c'est imagé, il y a des analyses, c'est tous les intéressés amoureux de la mer et plus généralement du fait militaire. Je crois que c'est un ouvrage tout à fait essentiel à se procurer, donc je vais rappeler les références. « Vaincre en mer au XXIe siècle, la tactique au cinquième âge du combat naval », publié aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci Alexandre. Merci.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notre appréciation et commentaires, notamment sur les outils d'Apple Podcasts ou de SoundCloud, ce qui aide grandement à notamment la visibilité du podcast, mais c'est aussi des retours qui sont très grandement appréciés sur le contenu et sur les évolutions de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.